Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 11 février 2004 de 18 à 21h, en différé jeudi 12 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 0085, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Quand Victoria s'enrhume, la France tousse.
Elle peut. C'est pas très beau.
Oh,
je fais un effort quand même.
Bonsoir, chers auditeurs, amis de la Résistance, bonsoir.
Bonsoir, chers
auditeurs. Autour de cette table et de ces micros, nous avons réuni la crème de l'élite. Pourquoi j'ai regardé les gens avec cet air méchant, Marquis ? Vous êtes en train de vous mettre en verve pour votre minute ?
Oui, c'est ça, quelque chose.
C'est vraiment le personnage le plus teigneux que je connaisse. Il a un regard, mais qui est d'une méchanceté invraisemblable. Surtout quand il regarde Victoria.
Oh.
Bon, alors donc ce soir, nous recevons Jean-Pierre Perroncel-Hugos, qui vient de faire un livre, bon, qui est un journaliste. Goffman vous le présentera tout à l'heure. Qui est un journaliste fameux, célèbre, connu, apprécié, et qui vient de faire un livre qui est un petit régal, même un grand régal, qui s'appelle « Traversée de la France ». C'est un livre d'amour à la France, à son histoire, à sa culture, à ses civilisations, à ses écrivains, à ses cinéastes, à ses paysages, à ses villes, à ses monuments, à tout.
J'approuve bien, et hein, je contresigne Serge de Bekech. Bonsoir.
Ensuite, nous recevrons, alors ça c'est exceptionnel, Madame Védrine. Alors, Madame Védrine, c'est une des voyantes les plus célèbres de France, je pense. Et elle a accepté de venir dans cette émission. Je vous rassure tout de suite, Madame Védrine, je ne vais pas vous demander l'exercice qu'on demande habituellement aux voyantes quand on les reçoit. C'est-à-dire de nous faire des prévisions, parce que c'est pas ça l'objet. Ce qui m'intéresserait, c'est que vous nous racontiez un peu votre vie et votre expérience. Et comment on devient voyante. Je pense que vous êtes une des personnes les mieux à même de traiter ce sujet. Qui fait l'objet en ce moment, ça c'est, j'ai vu ça l'autre jour à la télévision, d'études particulièrement poussées aux États-Unis, où une équipe de chercheurs, enfin des équipes de chercheurs essayent de trouver des explications rationnelles à des phénomènes qui ne le sont pas. Ensuite, nous recevrons le Marquis qui dira quelques méchancetés sur le beau monde.
Enfin, j'essaierai.
Et puis des gentils associés. Vous avez
oui, j'ai envie d'être gentil parce qu'il y a des gens qui le méritent vraiment.
C'est bien. C'est bien. Ça vous rachèterez comme ça. Et vous avez raison d'essayer d'être gentil parce que juste après vous, il y aura l'homme le plus gentil du monde qui est le docteur Dor.
Ah oui.
Donc, il faudra se
je l'aime comme un frère.
Ah bon? Ça, c'est nouveau alors. Et ensuite, nous recevrons des jeunes gens bien sous tout rapport qui servent de la soupe gratuitement aux pauvres. C'est bien, c'est des identitaires.
C'est bien.
Et puis nous recevrons Dominique Tassot et Monsieur Prival, qui sont les représentants du CEP que vous connaissez, Le CEP, c'est le Centre d'études et de prospective.
Ah, c'est pas la soupe aux champignons.
Non, c'est deux sujets différents.
Il y a une compétition, si j'ose dire, une soupe à l'échalote entre les identitaires et les jeunes d'Action française. Parce que...
Et puis les gens de Vexillarégis aussi, qui ont organisé une soupe.
Mais les pauvres vont avoir des indigestions.
Ben oui, on va les gaver. On va gaver les pauvres. De toute façon, les pauvres, ça sert à rien, il faut bien dire. Ou il faut les tuer, ou il faut les rendre riches. Parce que c'est pas.
Ah, il y a le super loto pour ça.
Ça changera un peu parce qu'il y en a qui se gavent avec les pauvres.
Oui. Tiens, on va parler de l'abbé. Comment il s'appelle
Pierre.
Celui-là Pierre, voilà. Pierre qui roule et qui roule son monde et qui avance de la mousse. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça vous plaît pas aussi?
Ah, si, d'autant plus qu'on en a fait une très belle page dans le numéro 314 du Libre Journal qui vient de paraître et dont je serais peut-être admis à dire quelques mots tout à l'heure.
Quand je veux que vous en disiez du bien, parce que si vous pouvez en dire du mal, c'est pas la peine, il y en a d'autres qui s'en chargent. Alors, en cette Saint-Adolphe, je souhaite une bonne fête à tous les Adolphes. Les Adolphes présents, à venir et passés.
On connaît deux.
Ah oui? Bien. Donc, en cette Saint-Adolphe, petite révision de l'actualité. D'abord, je voudrais présenter mes excuses aux auditeurs. Parce que, parfois, je réagis un peu vivement ou un peu négativement aux appels d'auditeurs qui me disent « Vous ne passez pas les messages ». Alors, je dois dire que, on essaie de les passer le plus possible, mais c'est vrai que parfois on en manque. Et je n'avais pas mesuré combien c'était désagréable jusqu'à la semaine dernière, où j'ai essayé plusieurs fois de faire passer un message dans une émission, et visiblement, il n'est pas passé. Alors j'étais très en colère parce que mon excellent camarade Yannick Hurien recevait M. Copé. Et alors M. Copé a expliqué ce qu'il voulait faire, ce qu'il allait faire, quand il serait président de la région... Île-de-France. C'est pas gagné, à mon avis. Enfin, il a toujours essayé. Mais il n'a pas dit la même chose à Radio Courtoisie qu'ailleurs. Parce que... Alors, c'était pour ça que je voulais quand même lui poser la question. Par exemple, il avait dit dans... Je sais plus où, mais on l'a dit... Là, c'est dans le livre journal, ça?
Oui, mais pas... Oui. On en a fait une page entière dans le numéro 313.
Oui, voilà. Il a dit que... La première chose qu'il ferait quand il serait président de la région Île-de-France, ce serait de faire des cours de formation dans les lycées et collèges contre l'homophobie, pour rendre les jeunes accueillants à l'homosexualité.
Oh, c'est charmant, je trouve.
C'est une bonne idée. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'il l'a pas dit sur Radio Courtoisie. Je pense que ça aurait beaucoup intéressé nos auditeurs, hein. Comme là, par exemple, hier ou avant-hier, il est allé dans une cité des territoires occupés et il a dit aux habitants de cette cité qu'il était très très urgent de raser toutes les cités pour reconstruire pour les occupants des sites d'existence agréables, fleuris, gentiment habitables. Il faut raser toutes les cités. Bon, ça, il ne l'a pas dit aux auditeurs de Radio Courtoisie. Il l'a dit aux habitants des cités.
De même qu'il s'est abstenu d'attaquer ses adversaires de droite, y compris Marine Le Pen, quand il était à Radio Courtoisie. Ouais. On peut peut-être penser qu'il a un bon conseil en communication qui lui prêche de raconter aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre.
Oui, mais alors là, le conseil en communication, il s'est pris les pieds dans le tapis.
Je pense que c'est parce que l'histoire ne se répète pas. Parfois, elle bégaye.
Ah oui. C'est possible aussi. Parce que, donc son conseil en communication a dû se prendre les pieds dans le tapis parce que quand il est allé dans la cité et qu'il a annoncé aux jeunes de cité qu'il allait raser les cités, les jeunes lui ont dit « Pourquoi tu veux tout démolir? On est bien là, on est
juste... » On peut le faire nous-mêmes surtout.
Oui, en plus on s'en occupe. Donc voilà, alors maintenant je pose la question, si Yannick le réinvite, je pense qu'il nous donnera la réponse.
Je suis drôlement content, Serge, que vous ayez mis ça sur le tapis. Moi, j'aurais pas osé. Et pourtant, je suis allé vendre le Libre Journal à la Criée, à Versailles, à la sortie de Notre-Dame des Armées. Et je me suis fait incendier par un auditeur et lecteur qui m'a reproché à moi personnellement d'avoir invité Copé, parce qu'il doit penser que je suis le PDG de Courtoisie. Alors, à lui et aux autres, je signale que je ne suis qu'un invité des plus humbles.
Non, mais en plus, votre ressemblance avec Yannick Hurien est assez lointaine, il faut bien le dire.
Merci.
Mais,
I take it as a compliment.
Mais ce que je veux dire, c'est que c'est tout à fait normal de recevoir Copé dans une émission.
Oui, bien sûr.
Parce que Radio Courtoisie, c'est ouvert à toutes les droites, et Copé est un homme de droite.
Mais c'est pas normal que notre ami est Cop.
C'est pas normal que, exactement, que Patrick est Cop, parce que Hurien remplit bateau.
Donc à partir de maintenant, ce sera Yannick ou rien.
Ça, c'est bon, ça. Yannick, on vous la vend celle-là. Hein. Je suis sûr qu'il nous écoute. Est-ce que vous avez été déjà condamné, vous, Marquis ?
Oui.
À quoi ? Bon, pas de détails.
Question de Gaulle.
Ah oui,
pour ingérer au chef de l'État.
Parce que vous étiez dans l'OS ?
Non, j'en ai rêvé, mais j'étais pas. Non, mais j'ai sifflé et hurlé sur le passage de Gaulle aux Champs-Élysées.
Ah non ?
Et j'ai eu 31 jours à la santé. Ah, et j'avais un voisin, mais je le connaissais pas, c'était Jean Ferré. À la même époque, en 63.
C'était l'époque où vous aviez la santé.
Oui, c'est, on avait la santé.
Et vous, Victoria, vous avez déjà été condamné ?
Moi, non.
Non, mais les travaux se poursuivent. Non.
Et Patrick ?
Condamné au 45 jours à l'armée.
Oui, ça vaut pas l'armée, ça. Ça vaut pas. C'est pas sérieux, ça.
Je fais ce que je peux.
Je pose pas la question à nos invités parce que ça serait indélicat, mais moi, je suis probablement le plus grand repris de justice de cette émission. Je dois avoir au moins une trentaine de condamnations à des peines vraiment graves et infamantes pour des faits vraiment pécamineux, du genre contestation de crimes contre lâche, injure raciale, diffamation raciale, à raison de l'appartenance raciale, religieuse et tout, et puis des choses vraiment très très vilaines. Donc je suis de vous tous ici, je mets les invités à part, le type le plus recommandable.
Et nous sommes fiers.
Vous n'osez pas demander à monsieur Perroncet-Lugo, journaliste célèbre.
Je ne posais pas la question aux invités parce que ce serait indélicat, c'est vrai.
Moi, ça me dérangerait.
Vous, ça ne vous dérangerait pas d'avoir été condamné ?
Non, quand on me pose la question.
Ah, que, je vous la pose donc.
J'ai été expulsé de plusieurs pays arabes. L'Égypte, le Soudan, la Syrie, l'Arabie Saoudite. Et je suis toujours interdit de séjour au Soudan, en Arabie Saoudite et je crois en Syrie aussi.
Au Soudan, c'est pas trop gênant parce que c'est probablement pas.
Pour un journaliste, c'est toujours gênant.
Oui, je t'en prie.
Il y a Barbès, non, ça va encore.
Je passe inaperçu.
Bon, non, je posais la question parce que maintenant, vous avez remarqué que depuis Juppé, on juge de la valeur et de l'indispensabilité des gens à l'importance de leur condamnation. Si vous n'avez pas au moins 10 ans d'indignité nationale, vous valez pas de tripette. D'ailleurs, il y a une chose qui est assez drôle. Vous avez remarqué que Juppé, quand il est, après avoir été condamné, il n'est pas repassé par son appartement du 8 rue de la Tour Maubourg.
Ah oui, c'est vrai.
De peur de rencontrer le fantôme de Pétain.
Et voilà. Parce qu'il voulait pas qu'on sache, il voulait pas qu'on dise que 8 rue de la Tour Maubourg, il y a un type qui avait été condamné à tort. Et oui, c'était l'adresse du maréchal.
C'est l'appartement même.
L'appartement.
C'est encore une combine là-dessous. Hein. Il y a encore une combine pour avoir eu l'appartement. Là,
ouais, parce qu'il n'est pas maréchal. Mais...
Bah, voilà.
C'est un de ses collaborateurs qui s'en est occupé.
Oui, sûrement.
Bien. Alors, maintenant, l'abbé Pierre, est-ce que vous faites partie des maudits ? Est-ce que vous êtes heureux ? Est-ce que vous avez des enfants heureux ?
J'ai un enfant, oui. J'ai
alors,
un fils.
Vous êtes maudit ? Et vous, vous êtes maudit ?
Je ne sais pas si j'ai des enfants.
Ah, ça fait chic dans mon émission de Radio Courtoisie, bravo. Ah,
il est bien notre marquis, on l'a sélectionné dans tout le marquisat. Hein.
Non, parce que vous avez entendu que l'abbé Pierre a maudit les gens heureux et les enfants des gens heureux.
Ben oui.
La malédiction talmudique et atavique, ça s'appelle. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a un bouquin qui vient de sortir sur Le Pen, le 276 millième article, ce bouquin sur Le Pen. Et alors, j'ai regardé naturellement tout de suite l'index, et j'y suis. Alors, j'étais très content, donc je suis allé à la page où je suis cité.
Ça continue.
Je suis cité sur deux pages. Mais c'est, en fait, c'est parce que la moitié de mon nom est dans une page et l'autre moitié dans
la suivante. D'accord.
Et alors, voilà ce que je lis, donc. En dépit des attaques sur le front, etc., en dépit d'erreurs de casting, comme le recrutement de Serge de Beckett...
Ah, oh, c'est flat.
Non, mais ça, c'est rien, ça, c'est pas grave. C'est à l'époque où j'étais allé à Toulon. Mais c'est vrai que c'était une erreur de casting.
Le bac de Toulon.
J'étais le premier à le dire. Et Serge Bicat a été du service communication ou de celui du petit-fils d'un ministre de Pétain au secrétariat général. Voilà comment les gens font du journalisme, parce que c'est un livre qui a été écrit par un journaliste, c'est-à-dire qu'il n'est pas écrit finalement, parce qu'en général, sauf la personne présente, les journalistes n'écrivent pas, ne savent pas écrire. Et alors, il fait un bouquin sur Le Pen en Provence, et le seul reproche, enfin un des reproches qu'il fait...
Oui, c'est d'avoir choisi Beckett.
C'est pas à Le Pen qui le fait, c'est à Le Chevalier d'avoir pris... comme secrétaire général de la mairie de Toulon, un petit-fils d'un ministre du maréchal de Pétain. Oui. C'est quand même pas mal comme amalgame. Hein.
Intéressant.
D'autant que je peux vous dire que le bonhomme en question, dont le nom m'échappe, d'ailleurs il n'y avait vraiment aucune raison de le retenir, il était à 1000 lieues d'avoir, ne serait-ce que le début du commencement, de l'ombre d'une apparence de silhouette d'idée conforme à celle que pouvait peut-être avoir son grand-père. Oui. Mais je vous conseille de ne pas être le petit-fils d'un ministre du maréchal Pétain, c'est très très mal vu.
C'était qui ce ministre?
Voilà, bonne question.
Je ne me rappelle pas le nom de ce secrétaire général de la mairie, mais on va certainement me l'indiquer avant qu'il soit l'heure d'un cochon de lait par téléphone.
Si les messages passent, oui.
Il avait le même nom, donc, alors.
Probablement, oui. C'est ça peut être ça, d'ailleurs, que le journaliste l'a reconnu.
Mais ça signifie que notre brillant journaliste n'est pas capable de le nommer non plus, ou qu'il n'ose pas?
Non, il n'ose pas. De Beckel, tu peux le nommer comme erreur de casting, mais le secrétaire général, il n'ose pas le nommer, visiblement. Alors donc, je disais à propos de l'abbé Pierre, je ne peux que vous recommander de lire un papier très intéressant dans le Libre Journal.
Oui, numéro 314, qui vient de paraître.
On apporte un éclairage tout à fait inattendu. Hein?
Oui, c'est tout à fait intéressant. Je suis en train de tourner les pages des épreuves pour essayer de remettre la main dessus. Vous vous souvenez pas?
Pas du tout, moi je...
La malédiction de l'abbé Pierre, voilà, ça s'appelle. Et même à la une, on l'a appelé ça, le secret de la malédiction de l'abbé Pierre.
C'est pas signé RG. Hein.
Oui, effectivement, malheur à nous, gens heureux, malheur aux enfants des gens heureux. Henri Grouès, fils de riche soyeux de Lyon... résistant, diplômé grâce à son œuvre d'aumônier de marine à Casablanca, épurateur dont même Pierre-Henri Tedgen reconnaissait qu'il était encore plus féroce que lui. Nous expliquons dans cet article...
Et dont Céline avait parlé de...
Il avait parlé de sa coquetterie putaine.
Coquetterie putaine de l'abbé.
Eh bien, il ne croyait pas si bien dire, parce qu'en 1954, démontre cet article que je ne vais pas continuer à résumer davantage, en 1954, son célèbre appel « Mes amis, au secours, une femme vient de mourir !» Bon, je ne vois pas à quel secours on peut apporter à une femme qui vient de mourir, mais enfin... Même pas les secours de la religion, tant que je sache.
Ouais.
Alors, mes amis, au secours, une femme vient de mourir, ça n'était pas complètement désintéressé et ça n'était pas complètement étranger aux grandes manœuvres immobilières de l'après-guerre qui avaient vu 1,5 million de logements détruits et le besoin de 4 millions de logements. L'abbé Pierre s'opposait frontalement au plan d'Autry, qui était un plan à long terme beaucoup plus raisonnable que celui des cabanes à lapins, dont cet appel prétendument sentimental et charitable a fait la promotion. C'est un article, c'est une des 24 pages du Libre Journal. J'enchaîne, Serge, hein, et puis comme ça on sera débarrassé.
Déchaînez-vous.
Oui, j'enchaîne et je me déchaîne et je me dépêche. Donc c'est une des 24 pages de révélation du Libre Journal numéro 314. Je cite encore le fait que l'affaire d'Hermouche, nous sommes les seuls à continuer à en parler.
Le seigneur d'Hermouche.
Oui. Aïssa d'Hermouche, le prétendu premier préfet, c'est en fait le cinquième ou le sixième.
J'aurais aimé qu'il s'appelait Ahmed, soit d'Hermouche Ahmed, enfin bon.
Bon, enchaînons rapidement.
Oui.
Nous sommes les seuls à continuer à en parler, alors qu'il y a 15 jours, nous étions les seuls à ne pas en parler. Il était sur tous les médias, sur toutes les télés, et puis 3 attentats plus tard... Silence radio, ah ben nous on est mal élevés, on est méchants, on est bêtes, on continue à en parler et à poser certaines questions. On a également sur 3 pages le témoignage effarant de la principale du lycée Beaumarchais à Paris 11e sur la terreur islamo-maghrébine dans son lycée. C'est un témoignage effarant, hallucinant. Oui. Voilà. Alors pour se procurer ce numéro 314, on envoie simplement un carnet de timbre. Si on a enfin compris, avant que je me fatigue de l'expliquer, qu'il faut s'abonner pour 1 an à ce journal qui paraît sur 24 pages 3 fois par mois, on envoie un chèque de 110 € à SDB, 4 places France List, 75 010 Paris. J'espère que c'est bien noté. Et puis bon, si on est vraiment trop radin, c'est gratuit au site internet suivant, francecourtoise.info.
Ouais, et puis il faut s'abonner parce que les temps sont durs, hein, comme les temps sont difficiles, comme disait Ferré. D'ailleurs, aussi, mais l'autre. Le préfet en question, j'ai dédié une chanson, c'était Aïssa. Aïssa, Aïssa, ne me quitte pas, enfin, réponds-moi, ne t'en vas pas.
Réponds-moi, ne t'en vas pas, oui.
Je n'ai pas apporté le disque parce que je ne l'ai pas, c'est une bonne raison. Oui, un auditeur me fait remarquer effectivement que l'émission de Yannick Urien avec Copé était pré-enregistrée.
Oui.
Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas passé mon message.
Ah.
Voilà, alors je retire tout ce que j'ai dit de méchant.
Oh là là.
Moi non plus.
Le canard enchaîné nous apprend que... On fait une enquête sur les comptes privés de M. Arafat en France. C'est évidemment l'avantage avec les comptes d'Arafat, c'est qu'il ne peut pas se réfugier en Israël, contrairement aux escrocs du sentier. Donc c'est plus facile, bien sûr. Le Ribot. Normalement, le jugement devrait tomber aujourd'hui. Le tribunal a demandé, le procureur a demandé 2 ans, dont 1 an ferme. Le procès était, on peut le dire, puisque le verdict n'est pas encore tombé, donc on peut maudire les juges avant le verdict. Le procès était un scandale de parti pris. La présidente du tribunal s'est conduite vraiment d'une façon comme une tricoteuse. Les gens qui étaient là-bas étaient abasourdis par le comportement. Elle était insultante, quoi. Insultante, le traitant d'escroc, de charlatan, enfin, c'est invraisemblable.
Une Ribot.
Et le pauvre Yannick, Loïc, il est retourné en prison. Or, ce qu'on lui reproche, c'est absolument dérisoire. Bien entendu, il n'a pas été une seule fois question de l'affaire Chanal et autres choses qui expliquent l'affaire de Ribot. Et je dois dire que il faut saluer la performance de certains journaux qui ont consacré, dans les jours qui ont précédé le procès, des papiers parfaitement injurieux, parfaitement injustes, diffamatoires et calomnieux à la question, au personnage de Le Ribot. Alors, c'est à la fois un escroc, un charlatan, un moteur, un voleur, un truqueur, un tricheur, et c'est aussi un mégalomane paranoïaque. Donc, normalement, il devrait être remis en liberté.
Quel était le chef d'inculpation?
Exercice illégal de la pharmacie.
C'est tout?
Oui. C'est ça. Lui coller un enferme. Il encourait 4 enfermes. Parce que c'est. Vous savez, les laboratoires défendent bien leur bistec. Hein.
Mais un auditeur vous demande si vous savez si le laboratoire est toujours contactable en direct.
Oui, absolument. Ça fonctionne toujours. Voilà. Qu'est-ce que. Ah oui, il y a l'histoire France Info quand même. C'est pas France Info, c'est Antenne 2.
Oh, superbe.
Ça, c'est une très belle histoire. Parce que...
On va être débarrassé de Mazerolles.
Oui, ça s'est fait, mais enfin, ça, c'est secondaire. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que d'un seul coup, les journalistes d'Antenne 2 réclament l'éviction d'un des leurs parce que le type a dit quelque chose qui n'était pas exact. Alors, mes enfants, soyez prudents, parce que si vous vous mettez à vous virer entre vous parce que vous dites des mensonges, ça va vite être le désert du Kalahari, les studios d'Antenne 2.
Il a eu la même démarche que Juppé, il dit si je suis condamné, je m'en irai, attendant la suite.
Eh ben non, il a
dit, c'est pour de bon, il
je pars, mais je continue à animer les émissions.
Ah oui, d'accord.
Bah, c'est 100 pareil. Minutes pour convaincre.
Jusqu'aux élections.
Et alors, autre chose qui concerne l'information publique, c'est que France Info est en grève.
Oui, ça n'en finit
vous,
plus.
Vous n'êtes pas aperçu? Ça repose, hein?
Il y a 3 semaines.
3 semaines de grève.
C'est terrible, ça.
Je ne sais pas si les grévistes se reposent, mais alors moi, qu'est-ce que je suis bien?
Ben, ça fait ressortir Stéphane Bern, tant mieux.
Oui, ah oui.
Il est sorti de la gang, on s'accroche à Stéphane Bern.
Chacun prend son plaisir où il le trouve.
Ah ben, pas avec Bern, hein, ça je vous le dis tout de suite.
Il y a quand même un service minimum. Oui, d'accord, mais...
Non, Jean-Pierre, c'est pas un service accidentel. C'est-à-dire...
De temps en temps, il y a un journal, quand même.
Oui, voilà, mais c'est pas minimum, c'est accidentel.
Je sais pas comment il faut l'appeler, mais...
Il y a un journaliste titulaire pour chaque heure, pour chaque tranche. S'il est gréviste, tant pis. S'il n'est pas gréviste, tant mieux. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. C'est eux qui l'ont...
uniquement en fonction de...
Je n'invente rien. Ils l'ont expliqué eux-mêmes de cette façon-là, parce que des auditeurs téléphonaient en disant « Pourquoi à telle heure ?»
Ah oui, ça, ils le disent.
C'est complètement aléatoire. Et si les grévistes, il ne peut pas être remplacé parce que ce ne serait pas...
Conflit de briser le droit de grève, etc.
Et donc, il y a quelques journalistes qui n'ont pas fait grève. Ça, ils ne l'ont pas dit. Ça.
Voilà. Et alors, je voudrais attirer l'attention du ministre. Je ne sais pas quel est le ministre qui s'occupe de ça. Mais je reçois d'un auditeur un petit papier dans lequel il m'explique qu'il a signé un contrat. Et il dit, malheureusement, j'ai appris après l'avoir signé que j'avais utilisé un instrument étiqueté érasable dans les bonnes papeteries parisiennes. Érasable n'étant traduit ni sur l'emballage ni sur l'objet du délit, j'ai pris ce mot pour une marque d'une collection ou quelque chose d'approchant, et ce fut l'erreur fatale. C'est-à-dire qu'il a utilisé un stylo, c'est une espèce de stylo bille qui s'appelle érasable, ce qui veut dire effaçable en anglais. Mais personne ne lui a dit ça. Et on n'est pas, jusqu'à présent, informé, obligé de parler l'anglais. Et comme il a utilisé un stylo effaçable, le contrat qu'il a signé est considéré comme nul et non avenu.
Oui, mais d'où l'utilité de la loi Toubon,
qui n'est naturellement pas appliquée.
Malheureusement, elle n'est pas appliquée, mais elle n'était pas si mal que ça. Si on l'appliquait, elle permettrait justement de faire qu'il n'y ait plus de confusion, puisqu'il doit toujours y avoir avec le français, avec, quand il y a une langue étrangère, toujours
l'équivalence en français. Oui.
Et une autre langue étrangère.
Alors maintenant, il a engagé une procédure, ce brave homme, pour essayer d'obtenir...
Il doit gagner normalement.
Bah, s'il invoque la loi Toubon, il gagnera son procès.
Cher Serge, je vous écoute via TPS de La Baule avec plaisir comme tous les mercredis. Ce petit mot en réponse à votre message. Je crois que vous savez aussi bien que moi pourquoi j'ai invité Jean-François Copé sur Radio Courtoisie. On l'a dit, bien sûr. Nous sommes officiellement la radio de toutes les droites. Toutes mes amitiés à l'ami Goffman qui, c'est vrai, ne me ressemblent pas. Il est observateur, Yannick. Que les auditeurs se rassurent, l'invitation de Copé est le fruit de ma seule initiative. Ça, je n'en ai pas douté parce que je sais comment ça se passe dans cette émission. Enfin, sur cette radio, personne ne donne d'ordre, personne n'en reçoit. Les messages de reproche sont à adresser le jeudi, soit une fois par mois. J'ai l'habitude, vous savez. Enfin, pour une fois, ça sera le mercredi, Yannick. On va pas se fâcher pour ça. Amitié à tous dans le studio. Ben et Radio Courtoisie plutôt... et tous les patrons d'émission signés Yannick.
Plutôt sympathique.
Ben, vous savez qu'on se connaît avec Yannick.
Ah,
moi, je l'ai vu pratiquement au berceau. Quand il faisait la zizik à Yannick sur Radio Solidarité.
Ah, la zizik à Yannick.
Ça fait des années et des années qu'on est complices. Et donc. Puis alors, une autre information que je vais vous donner avant de passer à la suite. Le directeur de l'École nationale de la marine marchande de Marseille a été muté. On dirait que ça a une importance assez peu évidente pour nous, mais ce sont les raisons de cette mutation. En fait, il a été viré, mais dans la fonction publique, ça s'appelle muté. On me reproche d'avoir loué un samedi une salle de conférence à la Fraternité Saint-Pédis, l'association créée par Mgr Lefebvre. Je n'ai pourtant fait que maintenir une pratique qui existait avant mon arrivée. Le prix de la location était tout naturellement celui demandé par le conseil d'administration de l'école. Mais voilà, il est vrai que je suis moi-même catholique traditionnaliste, mais je me contente d'assister à la messe. Je ne suis pas membre de la Fraternité Saint-Pédis, même si j'ai assisté à cette conférence, j'étais dans le public, je n'étais pas du tout présent. Est-ce qualité ? Voilà. D'autre part, alors c'est pour vous montrer, ça c'est son mémoire en défense, mais pour vous montrer jusqu'où ça va. D'autre part, les coupons d'inscription à cette conférence portaient le sigle de l'ENM, M, mais ils avaient été imprimés par la fraternité qui ne nous avait pas demandé notre avis. Bref, si cette histoire est mal tombée, notamment au moment du débat sur le voile islamique, je crois qu'il s'agit d'un prétexte pour me retirer la direction de l'École nationale de la marine marchande. Et alors là...
Il n'a pas été muté, alors il a été limogé.
Il a été viré, oui. De nombreux courriels anonymes, ça c'est la cerise sur le gâteau, me traitant de nazi et d'antisémite ont été adressés au ministère des Transports et au directeur des gens de mer. Tout cela a créé un climat très malsain qui a conduit à ma mutation, c'est-à-dire à mon éviction. Voilà. Voilà ce qui se passe en ce moment en France.
Pendant qu'en Suisse, M. Tariq Ramadan fait ses valises pour aller enseigner à l'Université catholique de Notre-Dame aux États-Unis.
Voilà. Et puis, je vous signale, mon cher Patrick Goffman, que vous avez vraiment du souci à vous faire, parce qu'en Espagne... Il y a un imam qui a été condamné parce qu'il expliquait dans un livre comment il faut battre sa femme.
Merci de me tendre cette perche. Pour remercier les très nombreux auditeurs de Radio Courtoisie qui ont commandé mon livre et qui n'est à peu près disponible que par correspondance, après que notre amie Anne Brassy a bien voulu me recevoir pour en parler et pour me contredire à ce sujet-là. Donc, ceux qui ne sont
pas. Elle n'est pas du genre femme battue, non ?
Non.
Pas du tout. Non, d'ailleurs, elle me menace. Hein. Elle a lu, donc, Bat à femme tous les jours, mon nouveau chef-d'œuvre, et elle me menace d'une réponse écrite.
Ah, bah oui, mais
donc, en attendant, Bat à femme tous les jours, c'est toujours 12 euros franco, donc port compris, à la Librairie Nationale, 12 rue de la Sourdière, Paris 1er.
Alors, je vais quand même vous lire des extraits du bouquin de l'imam, pas du bouquin de Patrick, parce que vous le lirez vous-même, mais l'imam.
L'imam, il faisait qu'appliquer le Coran. Hein,
ah ben oui, l'imam de Fuengirola en Andalousie, il a quand même pris 15 mois de prison. Hein, et une amende de 2160 euros pour délit de provocation et incitation à la violence. Vous avez intérêt à raser les murs, Patrick. Alors écoutez ce qu'il écrivait. Il ne faut pas taper sur des parties sensibles comme la tête, la poitrine, le ventre ou le visage.
Nous sommes d'accord.
Les coups doivent être administrés sur certaines parties concrètes du corps, comme les mains ou les pieds, en utilisant une baguette fine et légère, pour ne laisser ni hématome ni cicatrice. Ça, tiens, on devrait l'offrir aux flics.
Hein? Oui.
Pas la tête, pas la tête. Ils utilisent des annuaires, c'est ridicule. Il faut mieux utiliser une baguette fine et légère et taper sur les mains.
Le pire, c'est quand il y a eu le Minitel.
Ou encore, écrit l'imam, les coups ne doivent être ni forts ni durs, parce que la finalité est de faire souffrir psychologiquement et non d'humilier ou de maltraiter physiquement. Il est toutefois recommandé de ne pas châtier la femme rebelle ou qui est dans l'erreur quand on est en proie à la colère. C'est-à-dire, il faut taper, mais...
À froid.
À froid. Parce que si on est en colère, on peut se laisser aller. Ça finit par des coups de couteau dans le ventre.
Il ne faut pas l'esquinter, voilà. Parce qu'on peut s'en servir, si j'ai bien compris. Oui. C'est ça.
Et voilà. Et notre ami Quentin n'y avait pas pensé.
Et alors... Ça, c'est un livre qui s'appelle « La femme dans l'islam ». Et alors, naturellement, l'auteur s'appelle, pour ceux qui voudraient se le procurer, Mohamed Kamal Mustafa. Il a été jugé en Catalogne.
C'est le pseudonyme de Quentin. C'est...
Car c'est à Barcelone que le livre a été publié. Et c'est là qu'avait porté plainte une centaine d'associations de défense du droit des femmes. Décidément, elles ne comprennent pas. Hein. Ça n'a pas le sens de l'humour du tout, les femmes.
Non, hein, si je vous rassure.
Et le juge a dit... Alors le juge, il voit le mal partout, ces magistrats. Il a dit, ce livre est truffé d'opinions machistes et discriminatoires.
C'est le corps.
Bon, comme dirait Chirac, hein, comment il a dit, l'islam a apporté beaucoup à la civilisation européenne.
Non, il a dit ça à Philippe de Villiers, qu'il a révélé à la presse. L'Europe a autant de racines musulmanes que chrétiennes.
Oui, c'est ça. Ça, c'est le jour où il a trouvé une gouvernance marocaine pour son petit-fils. Il a dit ça.
C'est une gouvernante ou un père ?
Non, une gouvernante. Une gouvernante recommandée par l'envoi du Maroc. Donc ça devrait aller.
Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire d'intéressant sur l'actualité. Le reste, on s'en fout, bien entendu, comme tout le monde. De toute façon, ça ne fera, comme disait Bainville, tout ça finira par s'arranger, mais mal.
Vous avez ce que dit Chirac aussi. Oui.
Plusieurs auditeurs vous demandent... Enfin, on a refusé le certificat de domicile de Jean-Marie Le Pen en PACA. Ça vient d'être annoncé à la télé. Et puis, pouvez-vous nous donner un commentaire sur l'impossibilité de Jean-Marie Le Pen de se présenter en PACA ?
Non, mais je crois que c'est pas possible. C'est une erreur, entre guillemets, des services fiscaux. Je vois pas comment c'est possible d'empêcher Le Pen de se présenter en PACA.
Ben, comment c'était possible de le rendre inéligible pour avoir dit à Mme Paul Vast qu'on en avait marre d'elle ? On l'a bien fait,
oui,
pourtant.
Oui, bien sûr, mais enfin là, je pense qu'ils vont pas aller jusque-là, enfin, je crois. J'y crois pas. Je peux pas arriver à croire qu'ils vont oser faire ça, mais ça serait cataclysmique, probablement. Il va y avoir une manifestation de moins de 200 ou 300 personnes dans les rues de Marseille, vous vous rendez compte ?
Il y a la grâce présidentielle.
Hein ? Il y a la grâce présidentielle. Mais attendez, s'il s'appelait Grémetz, cet homme dont le nom commence comme un bruit de botte et finit comme un mur de forteresse, avec une charrière.
Ah, c'est très bien.
Joli, ça, hein ?
C'est joli, oui, oui.
Une auditrice vous signale, c'est même Madame Baudemarin, que Loïc Leribaud est jugé à Bordeaux par François Martre, qui était le président du tribunal correctionnel de Versailles, qui a condamné Le Pen pour les événements de Mantes-la-Jolie. Cela craint donc fort pour Loïc Leribaud.
Ah ben oui, c'est Martre. Ben oui, c'est le même, ça n'est
oui,
pas
oui.
Ça.
Martre.
Ah ben, il y a des soucis à se faire. Françoise Martre, sympathique jeune personne.
C'est tout.
C'est tout, bien. Alors, changeons complètement de sujet, tournons-nous vers Jean-Pierre Perroncet-Lugoz. J'aimerais bien que vous le...
Qu'on ne présente pas, mais qu'on va présenter quand même. Voilà, on est comme ça, nous.
C'est préférable.
Voilà. Bon, oui, parce qu'il y a peut-être quelques auditeurs qui ne le connaissent pas, et parce que ce serait gênant pour lui de se présenter lui-même. Pourtant, il l'a fait, mais pour un autre magazine, en lui disant qu'il était ouvertement islamophile, mais résolument hostile à l'islamisation de la France. Jean-Pierre Perroncet-Lugoz a été le dernier journaliste recruté, mais à l'essai, au journal au quotidien Le Monde par Hubert Beuve-Méry en 1969. Il a passé 8 ans en Algérie après l'indépendance, d'abord coopérant technique de 65 à 69, puis correspondant particulier du Monde de 69 à 73. Il fut ensuite interdit de séjour, comme il nous l'a dit.
Non, non, j'ai jamais été interdit de séjour en Algérie.
Ah bon?
J'ai eu des ennuis, mais j'ai pas été interdit de séjour. J'ai été expulsé d'Égypte, comme je l'ai dit tout à l'heure.
C'est-à-dire que les interdictions de séjour en Algérie, ça prend une
forme plus radicale. C'est-à-dire, oui, on avait eu des correspondants expulsés. Moi, j'ai eu Le Monde interdit, et ensuite... Quand j'ai quitté l'Algérie, j'ai publié un livre sur l'assassinat d'un poète pied noir qui avait pris parti pour les...
Jean Sénac.
Jean Sénac. Et à ce moment-là, le livre a été interdit. On m'a fait savoir que j'avais pas intérêt à y aller et que sinon je serais refoulé. Mais comme je n'y suis pas allé, et quand je suis retourné en Algérie en reportage en 88 lors des émeutes d'Alger, d'Oran, de Constantine, bon, à ce moment-là, on m'a laissé. Mais j'ai eu ma chambre fouillée par la police. Mais j'ai pas été interdit séjour en Algérie.
Cela dit, pour un islamophile convaincu, vous avez quand même publié un livre que j'ai lu. Et où je n'avais pas compris que c'était un livre vraiment islamophile. Ça s'appelait le Radeau de Mahomet.
Ben, je pense que c'est plutôt un livre islamophile, mais c'est un livre contre les Turcs de profession, c'est-à-dire les savants, les prêtres, les diplomates, qui tracent le portrait d'un islam à l'eau de rose, pour reprendre d'ailleurs l'expression d'un philosophe Ali Merad, algérien réfugié en France, comme tant de ses semblables. Et je considère que l'islam, c'est une civilisation qui a sa propre logique, mais que malheureusement, ou heureusement, enfin, en tout cas, le fait est qu'elle est incompatible avec la civilisation d'origine chrétienne comme la nôtre, et comme on en a la preuve tous les jours. Mais j'ai toujours été favorable, dans la grande tradition capétienne, à ce qu'il y ait une politique française de rapports suivis et développés avec les États islamiques qui sont nos voisins, on ne peut pas l'ignorer. C'est ce qu'avait fait Charlemagne déjà avec Haroun el-Rachid, c'est ce qu'a fait François Ier qui s'est allié avec le Grand Turc et qui leur a livré la ville de Toulon, oui, dont vous parliez tout à l'heure, pendant une année et demie, où on a évacué tous les habitants, parce que c'était l'intérêt général de la France face à l'Europe. Et je crois qu'aujourd'hui, la France aurait intérêt à avoir une plus grande politique vers le Sud pour pouvoir parler plus haut en Europe. Or, à l'heure actuelle, elle n'a qu'une politique européenne. Elle n'a pas de politique dans le Sud. Mais le roi Hassan II, qui était un grand chef d'État, un grand homme d'État, l'avait d'ailleurs un jour publiquement reproché à la France, disant qu'elle a deux ailes, elle se prive de son aile du Sud. Dans le Sud, il y a l'islam, qu'on le veuille ou non.
Mais ça, ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire on peut être partisan d'une politique arabe suivie, intelligente.
C'est dans nos intérêts.
De la France. Et puis,
mais je trouve que la civilisation islamique, elle se tient, elle a sa logique, elle a ses grandeurs. Et
sur cette terre.
Mais que malheureusement. Oui, mais c'est ce que disait, excusez-moi de la citer encore, de Jeanne d'Arc, à qui on reprochait à son procès sans vouloir me comparer. Vous êtes chrétienne, vous n'êtes pas les Anglais. Elle dit, mais si, mais chez eux, c'est tout.
Mais là, on est absolument d'accord.
Mais en plus, les musulmans sont très malheureux dans nos pays, parce que tous les jours, ils sont choqués par ce qu'ils voient, des femmes nues ou demi-nues, et des chiens, et toutes sortes de choses, que même
des cochons,
des charcuteries,
etc. Alors, évidemment, ils veulent changer les choses, et le problème vient de là.
Mais moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'ils les changent, mais je trouve qu'ils devraient aller les changer chez eux, quand même. Ce qui leur éviterait de venir
chez nous. Oui, mais il y a tellement d'avantages à vivre chez nous, que voulez-vous? Ben oui, mais tout est là.
Mais pourquoi ils ne créent pas aussi un système qui leur conviendrait, par exemple, le RMI?
Parce que, comme disait Léopold Senghor, il l'a écrit, il l'a dit, il me l'a dit, ils n'ont pas l'esprit de méthode, et qui est un privilège ou une caractéristique des Occidentaux, des Européens, des chrétiens, qui savent s'organiser, qui savent aussi s'autodétruire. Mais je veux dire, ils ont l'esprit de méthode et ils savent créer des choses qui plaisent aux musulmans et que les musulmans ont été incapables de construire chez eux.
Pour nos auditeurs, une référence. Avant de quitter le Radeau de Mahomet, c'est un livre qui date de 1983. Lieu commun, le premier éditeur, un peu oublié.
Non, c'est en poche. Oui,
ça a été repris par Flammarion dans la collection Chant. On peut le recommander, hein, c'est toujours disponible. Ouais,
écoutez,
il faut le lire.
Chant Flammarion.
Oui, mais si vous l'avez lu, vous devez voir que c'est un livre où il y a un chapitre qui s'appelle Les plumes de dessous, qui montre que les vertus de l'islam, et que malheureusement, ces vertus, elles sont incompatibles avec les nôtres.
Absolument,
tout le drame est là.
C'est ce qui me faisait dire que c'était un livre.
Mais j'ai aussi écrit islamophile. Je préférais être à tout prendre, si j'avais choisi, je préfère être musulman que yankee américain. Je n'ai pas changé d'avis là-dessus.
Alors, le radeau de Mahomet, Champflammarion, c'est toujours disponible, et c'est toujours disponible parce que c'est toujours demandé et que c'est considéré comme un livre assez prophétique. Il a 20 ans quand même.
Oui, il met en garde contre la désinformation sur l'islam qui montre que l'islam peut vivre avec nous. Malheureusement, on le voit tous les jours. Je veux dire, j'aurais plus besoin d'écrire ce livre aujourd'hui. Les gens ont compris.
Ouais. Je dirais qu'en plus, quand on veut former un couple, il faut que les deux soient d'accord. Ça marche mieux quand même.
Oui, bien sûr, oui.
Mais c'est pas tellement pour parler de ce, c'est pas du tout pour parler de ça.
Non, j'espère,
ça fait partie du sujet. Et ça fait d'autant plus partie du sujet que vous venez de soulever le point clé de votre nouveau livre, enfin la clé de votre nouveau livre, qui est l'esprit de méthode. Qui est une des
dont je ne parle pas dans mon livre.
Non, vous n'en parlez pas, bien sûr, mais c'est un livre qui est plein de cette sagesse française.
Traversée
de la
France.
Très française, ça s'appelle Traversée de la France. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un livre d'amour pour
département
la France.
Département d'outre-mer compris.
La France, tout ça.
Et Harkis et Pieds-Noirs compris, voilà. Puisqu'ils font partie de la France.
Et il y a, donc ce livre est construit avec cet esprit de méthode. C'est-à-dire, c'est un livre où il y a un coup de cœur. Chaque chapitre est un coup de cœur pour un paysage, pour un lieu, pour un monument, pour un village, pour un personnage. Et puis après, il y a une espèce d'appareil, on pourrait dire un appareil critique, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de lectures que vous proposez. Et puis à la fin, il y a même une série de films sur la France, sur les différents lieux de notre pays. Et je disais hors antenne, ça m'a fait, je crois que c'était hors antenne, ça m'a fait penser vraiment par certains aspects, un auteur que j'adore, qui est bien oublié aujourd'hui, mais qui, je pense, un jour ou l'autre reviendra, parce que c'est vraiment un grand écrivain.
Il se lit, la littérature de voyage, par exemple. Ouais. Quand j'étais dans les terres lusitanes, je lisais beaucoup
les choses qu'il avait écrites. Merveilleuses.
Il a écrit sur la Polynésie.
Très gros bouquin sur la Polynésie.
C'est un écrivain qu'on retrouve souvent dans les. Chez les libraires d'occasion, ouais. Je ne sais pas s'il y a des choses disponibles de lui, mais il mériterait d'être édité.
Sa veuve vient de, enfin, a publié il n'y a pas très très longtemps, Amandine a publié ses mémoires, c'est un très joli livre. Et c'est à lire. Alors, on n'est pas là pour parler de Chesterfield, mais j'ai trouvé des accents dans votre livre, des accents à la Chesterfield. Comment avez-vous eu l'idée d'écrire un livre sur la France, alors que vous êtes plutôt un journaliste, un grand reporter voyageur?
Oui, vous savez, l'exotisme, l'islam et tout ça, je commençais un peu à en avoir assez. Puis, en fait, c'est Le Monde qui m'a demandé des reportages de France, parce que mes confrères préfèrent aller en Thaïlande ou à Shanghai, et qu'à Carpentras ou à Béthune. Et pour moi, c'était une occasion, un peu sur le tard, mais enfin, mieux tard que jamais, de découvrir en long et en large la France, que je connaissais aussi, mais superficiellement. Et donc, je me suis porté candidat, quand on ne les proposait pas, mais on m'en a proposé pas mal aussi, pour aller partout en France où il y avait des sujets à traiter pour des... ce qu'on appelle les reportages France Voyage ou des week-ends tout simplement. Et puis petit à petit ça s'est amassé, ça a été lu, et c'est mon éditeur Bartilla qui avait publié mon fil rouge portugais qui m'a dit: mais écoutez, vous devriez réécrire ces reportages qui sont évidemment pas publiables comme ça, les étoffer, éventuellement les décensurer. Dans un journal il y a toujours une autocensure, on peut pas tout écrire évidemment dans Le Monde, j'ai travaillé ces textes pendant une année. J'en ai ajouté d'autres inédits et ça a formé cet ensemble, Traversée de la France, un peu en long et en large, un peu au hasard, y compris les quatre départements d'outre-mer. Je n'ai pas ajouté les territoires, ça fait déjà un livre de plus de 500 pages. Et ça a fait cet ensemble où, évidemment, on ne parle pas de toutes les régions de France, mais de beaucoup de pays, de contrées, de provinces, de départements, de villes, qui ne forment pas ni un catalogue, ni un guide. Je suis plutôt anti-guide, je dois dire. Ou alors, oui, ça serait un anti-guide, au fond.
Vous employez un mot qui, moi, m'a réjoui vraiment. Ça me fait très plaisir de trouver ce mot-là. Vous parlez de la Balsacie. Alors, est-ce que vous pensez que vraiment la France, c'est la Balsacie?
C'est pas toute la France, mais c'est les régions sur lesquelles Balzac a écrit ou dont il s'est inspiré pour camper le décor de sa comédie humaine. Ça ne couvre pas toute la France, mais si vous allez à Issoudun, si vous allez à Gemenos près de Marseille, si vous allez à Douai, vous retrouvez Balzac très facilement. Si vous allez à...
Encore maintenant.
Bah, moi, en tout cas, je les ai retrouvés. D'abord, il y a les bâtiments, il y a les maisons, il y a les endroits, c'est pas si vieux, hein, ça fait même pas 2 siècles. Mais on retrouve l'atmosphère d'une ville. Le contrat de mariage, ça, puisqu'on parle de Bordeaux en ce moment à cause de Juppé, il faut relire le contrat de mariage. Toute la société bordelaise est décrite par Balzac dans ce livre à travers une histoire de mariage, d'intérêt, qui va beaucoup plus loin, au fond, que Mauriac. C'est beaucoup plus profond, c'est...
C'est beaucoup plus chaleureux, en plus.
Oui,
beaucoup plus charnel.
Si oui, ça, oui, avec Mauriac, c'est pas difficile d'être plus charnel, il faut dire la vérité. J'ai vu qu'un Japonais a travaillé sur Balzac avec les ordinateurs, il a trouvé que le mot le plus fréquemment utilisé dans Balzac, c'est travail.
Oui.
Et ça, c'est un aspect qui est passé inaperçu. On voit pas Balzac comme étant quelqu'un qui fait l'éloge du travail, et pourtant, oui, c'est une chose.
C'était probablement le sujet qui.
Ben, lui-même, il l'a illustré, puisqu'il travaillait constamment.
Non seulement vous faites une carte de la Balzacie, mais vous citez Balzac dans votre antescriptum. J'ouvre les guillemets. Ce qui distingue la France, c'est des pays où se rencontrent réunis, adoucis, fondus, les beautés des paysages situés en diverses contrées, la grandeur des montagnes, la douceur des vallées, les forêts et les ruisseaux, les étangs et les prairies, les curiosités de Tivoli jointes au tableau de la forêt noire. Et parmi ces contrées qui sont le propre de la France, on devrait placer en première ligne le Morvan, etc. Alors, je viens de lire, évidemment, la citation que je ne voulais pas lire, donc je ne vais pas recommencer, mais Balzac un peu plus haut s'efforce de démontrer qu'on peut retrouver le monde entier dans les paysages français, dans la variété des paysages français, et que quand on a assez voyagé autour du monde, il n'y a pas de plus grand bonheur que de rentrer dans son pays et dire...
C'est ce que disait Paul Morand, d'ailleurs. Que je cite en exergue. Oui, Balzac, il avait quand même pas mal voyagé en Europe, notamment en Ukraine à cause de Madame Anska, et il était allé en Méditerranée, il avait pu juger, grosso modo, plus ce qu'il avait lu, les grands géographes de son époque, et pour voir que la France a le privilège de résumer finalement le monde entier. On a même les déserts, si on va dans la Croix, on est quasiment dans un désert. Oui. C'est vrai, oui, oui, bien sûr, mais je crois que les Français... l'ont oublié ou on ne le leur apprend plus. Mais les étrangers le savent.
Oui, la preuve les est dans les chiffres.
C'est pas dans nos habitudes de faire des cocoricos, mais quand même, on devrait peut-être rappeler plus souvent que la France est la première destination touristique mondiale avec, je crois, cette année, 75 millions de visiteurs, ce qui fait enrager les Espagnols, les Américains, les Italiens, etc. Mais la demande de France est incroyable. Et quand on voyage... La demande de France pour qu'on parle aux gens de la France, pour qu'on leur parle français, elle est aussi toujours considérable. Et à mon avis, elle ne fait qu'augmenter. C'est pour ça que quand je vois qu'il y a des livres sur le déclin de la France, etc., il n'y a pas un déclin de la France, il y a une sous-estimation par l'élite française, par les Français, les pauvres, parce qu'on ne leur apprend pas ou plus, de l'importance de la France dans le monde, malgré notre faiblesse démographique, malgré... l'absence de grande politique, il y a une demande de France qui va croissant et qui n'est pas exploitée malheureusement par nos gouvernants. Mais il y a des gens qui savent, les Américains. Je pense que s'il y a eu tant d'attaques violentes à travers l'affaire irakienne, c'est que ce qu'ils n'osent pas dire en temps normal, ils l'ont dit là. On est les seuls concurrents des Américains en ce qui concerne par exemple la fourniture de services par tête d'habitant. La France est le premier pays au monde comme fournisseur de services, d'assurance, de banque. On est quand même les inventeurs de la carte à puce. On ne le dit jamais assez, ça. On ne le dit même jamais. Et sur le plan aéronautique, sur le plan agroalimentaire, on est aussi, par tête d'habitant, le premier fournisseur mondial. C'est énorme. Et le second, en valeur absolue, tout de suite derrière les États-Unis. Et ça, c'est des choses qui sont oubliées en France, mais qui sont connues aux États-Unis.
Les États-Unis qui écrivent...
Non, alors évidemment, je n'ai pas fait un essai sur ça. Je pense que mes pérégrinations, mes bourlingages à travers la France sont un peu loin de ces questions-là, même si parfois je le dis, mais je saisis l'occasion qui m'est donnée d'en parler.
Vous aviez l'air tout à l'heure de dire que c'était au départ un contrat avec Le Monde, mais enfin très rapidement...
C'est-à-dire Le Monde m'a donné l'occasion, je le remercie d'ailleurs dans mon livre, de faire tous ces voyages que je n'aurais jamais pu faire seul, bien sûr. Et puis à partir de là, j'ai évidemment, dans un reportage, on ne peut pas tout mettre, serait-ce que par faute de place. Et puis j'ai gardé tout ça, et puis c'est l'idée d'un éditeur en fait qui m'a demandé de travailler, et je l'ai fait pendant une année là-dessus.
Le premier auteur que vous citez dans les airs, c'est Rabelais.
Oui, parce que je me suis fait une petite, comment dire, réputation, bonne ou mauvaise, sur mes livres exotiques, sur l'islam, sur la francophonie, sur la lusitanité. Et là, c'est de retour au bercail. Et la phrase « revenons à nos moutons » me paraissait s'imposer d'emblée.
Mais vous êtes un amateur de Rabelais, est-ce que c'est...
Oui, je suis un amateur de Rabelais, d'esprit rabelaisien. Oui.
Parce qu'il incarne quand même, lui, la France...
La France maillarde, la France rubiconde, la France gaillarde, gironde... le bon bec, oui, je suis tout
à fait... Et puis les paysages de la France, alors, dans ce qu'elle a de plus...
Oui, bien sûr. Enfin,
de plus traditionnel et de plus enraciné. Hein. Et en plus, l'histoire cachée de la France aussi, parce que...
J'essaye d'être rabelaisien, bien sûr, oui.
Quel est le pays de France... ou l'endroit ou le lieu de France qui vous a laissé la plus forte impression?
Oh là là, il y en a tant, mon Dieu. Écoutez, il me semble que la chose la plus impressionnante, mes pays du Midi vont me tirer les oreilles, je crois que, parce que ça résume tout, la géographie, la curiosité, l'histoire, la religion, c'est le Mont-Saint-Michel.
Oui.
Maintenant, là je reviens, j'en parle... pas beaucoup, je pense, dans mon livre de ça. J'étais dans récemment pour le Monde, je crois d'ailleurs que le papier sort aujourd'hui dans Le Monde, il me semble. C'est sur le village de Lurs, célèbre pour son... Il y a d'abord, ce village est absolument suspendu dans le ciel.
Il y a une très belle photo dans Le Monde, c'est rare. Mais
ah, vous l'avez vu?
Oui, je l'ai. Une très belle photo en couleur.
Mais il n'y a pas la photo que j'aurais aimée, c'est celle du promenoir des évêques, qui ne date que de Napoléon III, donc il n'y avait plus d'évêques à Lurs depuis la Révolution. C'est un des plus beaux paysages que j'ai vus en France, parce que d'abord on voit les Alpes, quand il y a un peu de Mistral, on voit la neige, même en été. On voit la vallée de la Durance d'un côté, où il y a l'endroit du crime, mais qui est très loin du village, alors que le village a beaucoup pâti de ce crime. Et commis par un Italien sur des Anglais, les gens du village disent on y était pour rien, et c'est très loin de chez nous, mais ça a donné une réputation terrible au village.
Et d'ailleurs, les habitants du village vous disent, mais du côté de la Durance, il s'est toujours passé des choses bizarres.
Oui,
pont de la femme sans tête, il y a des choses comme ça. Alors,
il y a une dizaine de crimes.
Malédictions dans le coin.
Donc, sur lesquels Magnan a fait
Magnan a fait un livre formidable là-dessus, absolument.
Ah ben, vous connaissez
c'est aussi une ambiance à la Giono.
Oui, mais à mon avis, c'est plus pimenté que Giono. Et puis alors, de l'autre côté, on va vers Notre-Dame-des-Anges, ça c'est le côté vers Fort-Calquier, vers les quatre reines, dont la femme de Saint-Louis était toute fille de Provence, qui est quatre sœurs qui épousèrent les quatre principaux rois de l'Europe au XIIIe siècle, qui est une chose qui est restée, que Marie Moron a romancée, mais qui reste connue dans la mentalité populaire de cette région-là. Et alors... À Lurs, ce promenoir des évêques, l'exemple c'est un promenoir, c'est une promenade, qui ne date encore une fois que du 19e siècle par les 15 stations du Rosaire, mais où les évêques, puisqu'il y a eu un prince évêque à Lurs de Charlemagne jusqu'à la Révolution, venaient lire leur bréviaire ou se promener. Alors ça, c'est un endroit absolument sublime. En plus, il y a un très bon restaurant. Et oui, ah bah oui, mais quand même. Alors les truffes, ben on revient à Rabelais, on revient. Oui, alors pour le village de Lurs qui a tant souffert de ce crime commis il y a pourtant plus de, je crois que c'était en 52, 52 je crois, oui. Ouais. Donc un ami de Giono, Maximilien Vox, qui était un graphiste protestant très connu, a créé des rencontres internationales de Lurs. Ils ont été obligés de les débaptiser, de les appeler de Lure, qui est une montagne voisine, parce que ça faisait fuir les gens.
Surtout les Anglais, probablement.
Enfin, tout le monde, parce qu'il y avait l'idée de...
C'est un bon... L'histoire de Lurs m'amène à vous poser une question que j'avais en tête. Est-ce que les Français sont dignes de leur pays? Est-ce que le paysage porte des gens qui méritent ce paysage?
Alors, je ne sais pas si
vraiment poser la question. Non.
10 ans de nous. Mais bon, écoutez. Je pense que les Français en sont dignes, oui, il n'y a qu'à voir leur histoire, leur littérature, leur cuisine. Je pense, mais je crois que malheureusement, l'élite française actuelle, notamment politique, n'en est pas digne ou pas consciente, ou qu'en tout cas, le devoir qu'elle aurait d'expliquer, d'instruire les Français de cette importance de leur pays, j'aime pas beaucoup Balladur, mais je reprendrai quand même son nom, de l'exception française qui en est vraiment. Il faut vraiment avoir beaucoup voyagé pour s'en rendre compte. Oui, mais les Français n'en ont plus conscience. Écoutez, il suffit de regarder la télévision, on n'y parle jamais de la France, ni de
Et quand on en parle, on se fait traîner dans la boue. Il y a un journaliste de télévision qui s'appelle, qui présente un journal.
Faisons l'exception de Pernaud quand même, voilà. Qui est très attaqué.
Et bien voilà, c'est lui dont je voulais parler. Bon, oui. Pernaud, qui présente des paysages de France, des artisans, qui fait un vrai travail de fond sur
la réalité française. Moi, je le cite dans ma bibliographie parce que
Eh bien, il est traité comme une espèce de vieux con réac.
Oui, mais enfin, il est aussi très apprécié par le public qui regarde la télévision.
Mais
oui,
il est honni par l'intelligentsia ou la mésintelligentsia.
Oui, c'est vrai.
C'est
le gros point noir de la situation française aujourd'hui.
Je ne sais pas si vous êtes dans ces dispositions d'esprit, mais il y a une chose qui me met dans des rages froide, terrible, c'est de voir nos dirigeants aller passer leurs vacances au Canada.
Chirac au Canada. Alors qu'ils pouvaient aller à la Réunion.
Voilà, d'abord, puis il aurait pu aussi
si vous voulez des palmiers. Non, mais ils pouvaient aller à la Réunion.
Oui, bien sûr.
Même réaffirmer les caractères.
Moi, je pensais qu'un président de la République se devait, pendant son septennat ou son quinquennat, ça fait 5 fois les vacances, de les passer au moins dans l'Hexagone quand même. Et pendant que j'ai le micro, je le lâche tout de suite. Il y a aussi cette fâcheuse habitude, on ne dit plus jamais la France, on dit ce pays. Vous écoutez les députés à l'Assemblée nationale dans ce pays, au lieu de dire dans notre pays.
Y compris des gens de droite.
Ça se dit à ce micro aussi.
Y compris des journalistes de Radio Courtoisie, oui, dont votre serviteur qui
peut pas ça échapper. C'est-à-dire, non, mais ça, c'est autorisé quand on évite une répétition. De même moi, on m'a beaucoup reproché de dire l'Hexagone, qui est un mot que De Gaulle utilisait en 1936, d'ailleurs. Même De Gaulle ou pas, d'ailleurs, ça permet de situer. Oui, puis on met une majuscule pour distinguer l'outre-mer. Mais il faut d'abord dire la France, notre pays. On peut dire ce pays à la fin, mais ça a un côté un peu du latin isté, c'est-à-dire ça a un côté légèrement condescendant.
C'est apostrophe, exactement.
Oui, c'est dommage. Mais les étrangers nous donnent la leçon, puisqu'ils viennent en grand nombre et ils écrivent des livres. Il y a des Anglais maintenant qui se mettent à publier des livres à la gloire de la France, alors que souvent ils ne nous ménagent pas.
Alors, en couverture de votre livre, il y a un très joli petit tableautin. Qui a fait ça?
C'est un peintre qui est né à La Rochelle, Claude Lagoutte, qui était né en 35, qui est mort en 90. Et je dois vous dire que c'est une vue de la Mitidja en Algérie.
Ah, ça c'est amusant. Oui.
C'est vue de l'Arba, qui est un village aujourd'hui occupé par les islamistes. Je trouvais que c'était très français, après tout il y avait un terroir français en Algérie.
Ça représente absolument la France, j'ai l'impression que ce sont des...
Mais la Mitidja, c'est une œuvre française, vous savez. Alors,
oui, bien sûr.
Comme il y a des chapitres qui sont dédicacés aux pieds noirs et aux harkis, j'ai estimé que c'était pas déplacé, puisque la veuve du peintre m'a autorisé de publier cette gouache ou aquarelle inédite. Il y a d'ailleurs un chapitre, l'Onis, qui tourne autour de ce peintre qui a travaillé en Algérie notamment, et qui était un militaire à l'origine, un pharmacien de l'armée royale là-haut, puis de l'armée populaire algérienne, et qui en même temps travaillait à la peinture, qui s'est retiré ensuite, mais il est mort peu après, pour se consacrer uniquement à la peinture.
C'est amusant de voir que c'est un paysage de la Mitidja qui illustre un livre consacré à la France.
Le terroir de la Mitidja, il a été ramené en métropole, dans l'Hexagone, par les gens qui l'avaient créé. Et on n'efface pas l'histoire.
Un très joli chapitre aussi sur le Morvan, qui est un pays que j'aime beaucoup, qui est un pays magique, vraiment au sens, dans tous les sens du terme.
Et aux portes de Paris.
Et qui est aux portes de Paris, à 2 heures de Paris.
Et que la plupart des Parisiens ne connaissent pas, j'ai constaté.
Voilà, c'est un livre vraiment superbe. Moi, je crois qu'il faut avoir ça dans sa bibliothèque, il faut avoir ça dans sa voiture, parce que quand on... c'est pas un guide du tout, mais...
Dans la voiture, oui.
Non, mais c'est vrai, c'est pas du tout un guide, mais...
C'est enfin, quand... Il y a un index, a, des noms voilà, et des lieux, donc
vous parlez de très nombreux lieux.
C'est une lampe.
Oui, c'est ça.
Je peux te dire en deux mots, je suis allé aux Andelys. Moi, je m'imagine avoir l'œil. Je suis allé aux Andelys il y a quelques années. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé me délecter morbidement au musée de l'escadrille Normandie-Niemen.
Vous auriez mieux fait d'aller voir la geôle de Marguerite de Bourgogne.
Et voilà.
Et Louis X le Hutin lui a fait payer ses infidélités.
C'est vous qui me l'avez appris. Et maintenant.
Ou d'aller voir le tableau de Coriolan qui se trouve dans la maison de Poussin.
J'ai lu précisément votre article sur votre chapitre sur les Andelys. J'ai eu honte. Je me suis dit, je suis vraiment un malade morbide. Je suis allé renifler les vieux uniformes soviétiques de nos aviateurs du Normandie-Niemen et soupirer et me lamenter. Alors
je savais même pas qu'il y avait ce musée près des Andelys.
Voilà, un très joli livre qui va de Abbeville, je suis en train de regarder, à quel est le dernier...
Certainement pas le Zimbabwe, en tout cas.
À Ivrac.
Ivrac avec un Y, oui, ben c'est le pays où habitait justement le peintre de la Goutte qui a fait ce tableau d'une mitigée si française.
Ça s'appelle La traversée de la France, c'est publié par Bartilla. C'est un livre de Jean-Pierre Perron-Sélégoz, grand journaliste, grand reporter et grand reporter voyageur au Monde, et qui circonscrit ses pérégrinations à la France pour ce bouquin. Et c'est vraiment quelque chose que je me suis vraiment réjoui de lire. C'est un vrai moment de bonheur. J'avoue 24 euros pour... Pour combien? Plus de 500 pages.
On peut même pas en dire.
524 pages.
On peut même pas en dire tout le bien qu'on en pense.
On va écouter, arrêtez. Je vais disparaître sous la table.
Ça serait gênant, voilà. Donc, n'en disons pas trop de bien. Voilà. Mais lisez-le. Et puis, si vous avez du mal à en dire, n'hésitez pas à nous le faire savoir.
Donc,
ça nous reposera. Il y aura pas beaucoup de courriers.
Vous redites le titre pour nos auditeurs.
Traversée au pluriel de la France. Chez Bartilla.
Par Jean-Pierre Perroncel-Hugoz.
Et qui coûte combien?
Et ça coûte 24 euros. Pour plus de 500 pages.
Il y a une question, enfin plus de deux questions. Ne craignez-vous pas d'être évincé du monde pour vous être commis sur Radio Courtoisie?
Bravo. Mais pas du tout. Je suis déjà venu plusieurs fois à Radio Courtoisie. J'assure le service après-vente de mon livre. Je vais partout où on m'invite. J'étais déjà ici pour d'autres livres. Et je vais là où... Je sais pas, quand on est plombier, on ne demande pas les opinions du client. Je trouve la question, elle avait déjà été posée quand je suis venu ici. Bah, il y a certainement des gens au Monde qui sont pas très contents qu'un de leurs journalistes viennent sur certaines radios, ça peut être la vôtre ou d'autres, mais que si on me dit quelque chose, je réponds ce que j'ai toujours répondu. Je suis quand même au Monde depuis 33 ans, vous l'avez rappelé tout à l'heure, je ne pratique pas l'exclusion. Je vais partout où on m'invite, et un journaliste doit aller partout. Un jour, il y a eu un débat au Monde, savoir si on devait interviewer Saddam Hussein. Ben, j'ai répondu que oui, que même si on avait pu interviewer Hitler, ça aurait été... Enfin, évidemment, ça va de soi, je veux dire.
Que pense rétrospectivement Monsieur Perroncel-Hugoz, grand spécialiste des pays musulmans, de l'engouement généralisé des journalistes intellectuels pour l'ayatollah Khomeini il y a 25 ans? Quel bilan faut-il tirer de la chute du Shah en ce 25e anniversaire de la prise de pouvoir par les révolutionnaires en Iran?
Ça, il y a beaucoup qui ont soutenu l'ayatollah Khomeini, s'en sont évidemment mordus les doigts. Moi, alors là, j'ai absolument aucun complexe. J'ai toujours soutenu les Pahlavis, que je trouvais que le Shah était un visionnaire. Et je l'ai écrit dans Le Monde. Parfois, il a fallu un peu insister. Mais j'avais fait des reportages en Iran. J'ai jamais été correspondant en Iran. Mais j'ai connu le Shah quand il était en exil en Égypte. Et je n'ai pas changé d'avis. C'était un très grand bonhomme. Et les Américains, malheureusement, n'y ont rien compris. Comme ils n'ont rien compris à l'Afghanistan, où il fallait bien entendu restaurer Zahir Shah, puisque vous parlez de Shah, qui était le seul qui pouvait penser l'âme afghane, penser PAN, après le communisme, l'islamisme, etc. Et on est encore une fois victime des bourdes américaines, et le Shah en a été, bien entendu, la première victime. Mais
merci à Monsieur Perron-Selugos pour tous les articles en faveur de la cause libanaise qu'il a écrit lorsqu'il était responsable de la rubrique Moyen-Orient au journal Le Monde.
Non, je n'étais pas responsable de la rubrique, mais j'ai été envoyé spécial du Monde pendant plusieurs mois au Liban. J'en ai d'ailleurs tiré un livre, Une croix sur le Liban, qui évidemment défendait la position des chrétiens, et parce que c'était la position nationale libanaise. Et à cette époque-là, certains ont cru que j'étais responsable de la rubrique, donc j'étais correspondant du Monde au Proche-Orient, basé au Caire, et notre correspondant à Beyrouth, ayant été assassiné par des islamo-progressistes, à un passage entre les deux Beyrouths, le regretté Edouard Saab, je suis allé le remplacer au pied levé, d'où les informations que j'ai données sur le combat des chrétiens du Liban.
Est-ce que vous êtes parti à l'époque avec des idées simples vers l'Orient compliqué?
Écoutez, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que j'étais correspondant du Monde en Égypte et que quand je suis allé voir les premiers combattants chrétiens maronites et que j'ai vu des calcomanies de la Vierge et des saints sur la crosse de leurs armes, je leur ai fait un peu... pas estomaqué, mais enfin, j'aurais quand même posé des questions. Et ils m'ont dit, comment vous êtes correspondant du Monde en Égypte, vous voyez la situation de dimitude dans laquelle vivent les Coptes, et vous nous posez la question à nous, pourquoi nous nous battons au nom de la religion pour protéger justement notre statut de non-dhimmi, qui malheureusement est aujourd'hui, ce statut de non-dhimmi n'existe plus au Liban, puisque les chrétiens ont été obligés de se soumettre. Voilà.
Et puisque votre invité connaît bien l'Algérie et qu'il a suivi la montée du FIS et du GIA, je veux lui demander si l'on peut faire un parallèle entre l'islamisation de l'Algérie dans les années 80 et celle de la France aujourd'hui. Je veux dire que les barbus ont largement recruté parmi les hittistes, les désœuvrés et les chômeurs et les jeunes Algériens qui au départ n'allaient pas à la mosquée. D'autre part, le trabendo, c'est-à-dire l'économie parallèle qui sévissait et sévit encore en Algérie, se retrouve dans les banlieues de France. Bref, la grande masse des jeunes à la dérive est-elle une main-d'œuvre future pour les imams?
Bon, d'abord, je conteste le fait qu'il y ait eu une islamisation de l'Algérie à partir de 80. L'Algérie, elle est islamisée depuis plus de 10 siècles en profondeur. L'âme musulmane, l'âme algérienne est musulmane. Et je veux dire, c'est pas une chose nouvelle qu'à partir des années 80, il y ait eu une plus grande politisation de cet islam jusqu'à l'idée de prendre le pouvoir. Mais les dirigeants algériens depuis l'indépendance ont toujours appuyé à fond sur la pédale islamique. Je veux dire, les lois interdisant le mariage d'une musulmane, même non algérienne, en Algérie avec un non musulman, ont été édictées par le gouvernement FLN hérité de l'indépendance. Quant au Trabendo, s'il se justifie en Algérie parce que c'est un pays de pénurie, puisque le socialisme n'a pas réussi à organiser la distribution des vivres en Algérie, en France, c'est totalement inutile. Et ce que vous appelez Trabendo, parce que l'auditeur, c'est simplement des trafics de hachiches ou de produits tombés des camions, comme ils disent. Et donc, si ça se justifie en Algérie, ça ne se justifie pas en France. Donc on ne peut pas faire un parallèle, mais effectivement, il y a un début d'islamisation de la France qui est en partie organisé par des Algériens. Mais ça, les responsables en sont messieurs Giscard d'Estaing et Chirac, qui en 1976 ont édicté une loi dite du regroupement familial, qui fait qu'aujourd'hui, au lieu qu'il y ait 1 million de musulmans en France, c'est une chose qui serait tout à fait gérable, il y en ait 6 millions.
Merci.
Dernier commentaire de vos auditeurs. La Libye qui tue les Français, l'Algérie qui récupère le pétrole et l'Irak qui ne rembourse pas ses dettes. Un grand bravo à la politique arabe de la France.
C'est formidable, Serge, comme les auditeurs sont conservateurs. C'est-à-dire, on leur fait un entretien avec Léon Sellugos, explorateur de la France, et ils sautent sur le téléphone pour refaire l'interview en disant, vous qui avez écrit le radeau de Mohamed, vous qui étiez correspondant du Monde en Égypte, et ils refont l'interview.
Alors, laissons le sujet sur les électeurs. commentaire sur ce que cet auditeur dit est vrai, mais d'un autre côté, il ne met pas dans la balance les énormes avantages que la France a tirés de ses relations avec les pays arabes, avec les pays musulmans, avec les pays du Sud, qui sont des gros clients de notre industrie, de nos industries d'armement, qui font vivre des milliers de Français, de nos industries agroalimentaires. N'oubliez pas, par exemple, que quand on sacrifie je ne sais combien de centaines de milliers de moutons en Arabie Saoudite, il y a une grande partie qui vient de France, et tout ça c'est du travail pour les Français. Alors c'est vrai aussi que Kadhafi a fait tomber un avion avec des Français, mais on ne peut pas pour ça renoncer à vendre des avions et des moutons à Kadhafi, ou alors il faut mettre la clé sous la porte. Donc j'insiste, c'est les intérêts de la France qui me guident dans ce que je dis.
Merci Jean-Pierre Perroncet-Lugol.
Merci à vous.
Et merci d'avoir écrit ce beau livre qui s'appelle Traversée de la France, qui est paru chez Christian Bartilla. Chez Bartilla.
Chez Constance de Bartilla. Christian, c'est le père.
Oui. Voilà.
Merci.
Et je me tourne maintenant vers Madame Védrine. Bonsoir, Madame.
Bonsoir.
Alors, vous êtes une des célébrités d'un monde bizarre, qui est le monde de la voyance.
Je ne suis pas une célébrité, je suis une voyante. C'est
oui,
tout.
Vous êtes une voyante célèbre, connue. Vous êtes
parfaitement. Vous êtes parenté au ministre, ancien, non?
Non, je ne crois pas. Je crois que les relations avec le ministre sont plutôt distendues. Et voilà, je vous ai demandé de venir ce soir parce que, il y a quelques temps, on a vu à la télévision un reportage sur des expériences qui sont faites aux États-Unis sur les phénomènes de voyance. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est décelable dans le, notamment dans les examens qu'on fait, les examens du cerveau qu'on fait avec des appareils maintenant, des appareils spéciaux, des scanners, des choses comme ça. Et c'était très technique, mais moi j'aimerais avoir votre avis à vous.
Moi, je suis venue au monde voyante.
Alors, comment ça s'est manifesté pour la première fois?
J'étais toute petite et j'avais dans ma chambre, je voyais des personnages, j'entendais des voix. Ma mère s'inquiétait. M'a fait soigner, et alors après, je ne lui ai plus dit. J'en ai pris conscience vraiment quand j'avais à peu près 7 ou 8 ans. Alors là, je voyais, quand mes parents invitaient, mon père était dans les affaires, quand nous avions repas, ben, je disais des choses désagréables aux gens. Par exemple, il m'est arrivé de dire à une dame, « Maman, cette dame a deux maris ». Alors, naturellement, je suis retournée me coucher au lit sans dîner.
Contrairement à la dame qui, elle...
Et beaucoup plus tard, comme j'avais des convictions religieuses très... Je me suis pas installée. Mais j'ai pris des maux de tête terribles.
Parce que vous êtes... Oui, vous êtes très religieuse.
Je suis catholique.
Vous êtes catholique. Alors, la tradition catholique, enfin, elle a dit qu'on ne doit pas faire appel aux voyants.
On
ne
doit pas, on ne doit pas.
Alors, comment arrivez-vous à concilier cet interdit avec votre vie?
J'ai été obligée parce que j'ai pris des maux de tête terribles. Et je suis allée voir un vieux radiesthésiste qui m'a dit, vous êtes voyante, il faut vous servir de votre don de voyance, sinon vous allez avoir mal à la tête toute votre vie. Je suis allée voir le père Gesselin.
Ah oui, bien sûr.
Qui m'a longuement parlé, qui m'a dit, je vous donne la permission, je suis sûre que vous ne ferez pas de mal.
Alors, il faut dire que le père Gesselin, c'était le grand exorciste du diocèse de Paris. Oui. C'était un ami, d'ailleurs, on diffusé sur cette antenne une interview de lui. C'était un personnage extraordinaire, extraordinaire, le père Gesselin.
Il est venu nettoyer ma maison, d'ailleurs.
Oui.
Et j'ai suivi ses conseils, et il m'a permis de travailler, et je me suis installée.
Voilà. Alors, vous nous disiez, quand vous étiez petite fille, ça s'est manifesté par des visions ou...
Des visions.
Mais comment, c'est-à-dire, vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un dans la pièce que vous voyez?
Oui, je voyais des ombres, j'entendais parler. Alors,
ça vous dit des choses précises? Ça vous dit cette dame-là a deux maris ou c'est quelque chose que vous ressentez d'une façon?
Par exemple, tu es pas gentil, tu es une sotte.
Là, c'est quand vous étiez petite fille, maintenant
quand
c'est fini.
Quand j'étais après, bien
maintenant,
sûr.
Maintenant, vous êtes gentille.
Maintenant, maintenant j'exerce, alors j'ai plus de maux de tête. J'ai plus de problèmes, puisque je prie, c'est tout.
Et est-ce que c'est pas un peu effrayant, quand même, quand on est une petite fille et qu'on découvre ça? Est-ce qu'on a l'impression que c'est normal, ou est-ce qu'on sent qu'on n'est quand même pas comme les autres?
Vous savez, quand on est petite fille, on trouve tout normal. J'en ai pris conscience sûrement après, quand j'avais une dizaine d'années. Alors, c'est un peu peur.
Et les enfants de votre âge, ils vous regardaient, ils savaient que vous aviez ce...
Pardon?
Les enfants de votre âge, à l'école par exemple.
Quelquefois je leur disais des choses, alors on se moquait de moi. On disait que j'étais un peu folle, que c'était pas vrai, que je me faisais des idées.
Mais est-ce que, par exemple, quand il y avait un examen, vous aviez la question de l'examen avant?
Ah non.
Non, ça marche pas.
Pour soi-même, on voit pas.
Parce que vous connaissez la vieille histoire de la, du gars qui vient frapper à la porte d'une voyante et il entend qui est là et il s'en va.
C'est connu, ça.
Oui, c'est ça. Non, et vous, non mais je plaisante à moitié. Quand vous entendez quelqu'un frapper chez vous, est-ce que vous avez l'intuition?
Il y a quand même, à l'état latent d'une voyante, il y a quand même l'intuition qui domine, quand même. Ça veut dire, par exemple, quand je suis mal, que j'ai une angoisse, c'est que j'ai quelque chose de désagréable qui va m'arriver. Mais pour avoir une vision pour moi, je n'en ai pas.
Et alors, pour les gens que vous recevez, ça se manifeste toujours de la même manière, ou est-ce que c'est simplement une intuition que vous avez?
Ah non, c'est de la voyance. Je regarde les mains. J'ai une boule, parce que pour faire de la...
Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette boule?
Ben, la question que me pose la cliente, ben, je demande à mon guide intérieur de me montrer, et j'ai la réponse, soit par des symboles, soit par des choses concrètes.
C'est-à-dire que dans la boule, vous voyez comme sur un écran de télévision?
Voilà.
C'est extraordinaire. Vous ne voyez pas de redevance?
C'est la voyance. Je me suis habituée. On s'habitue après.
Est-ce que c'est pas un peu risqué quand même? Parce que les gens viennent vous voir dans l'intention de vous demander une aide.
Ils viennent tous, en principe, pour vous demander une aide. Il y a aussi les curieux.
Mais vous les sentez, ceux-là?
Oui, bien sûr. Mais il y a des gens qui souffrent aussi. Alors c'est quand même... Ils sont là pour qu'on les aide. C'est ce que j'essaye de faire.
Vous leur donnez des conseils?
Je m'intègre à leurs problèmes, complètement. Ouais. Je prends leurs problèmes comme s'il était mon problème. Et comme ça, en regardant ma boule, en regardant leurs mains, j'arrive à les guider, à les conseiller dans la mesure du possible. Je ne suis pas Dieu le Père. Mais je fais tout mon possible pour qu'ils partent heureux, rassurés.
Oui, mais ça, c'est presque de la psychothérapie. C'est-à-dire que, est-ce que, si vous voyez quelque chose si vous voyez, par exemple, que cette personne va mourir ou a une très grave maladie dont elle a peu de chances de se guérir, comment vous arrangez? Vous lui dites?
C'est difficile, ça. J'ai eu un cas, au début de ma voyance, une jeune femme qui venait tous les jours. Son mari l'avait quittée pour les affaires, soi-disant. On l'avait laissé à Paris avec son petit garçon, sans presque pas d'argent. Elle n'avait plus de sous, je ne prenais rien. Mais tous les jours, elle me disait, je veux mon mari. Alors, longtemps, je l'ai bercée d'illusions. Et un beau jour, je lui ai dit, votre mari est avec une maîtresse. Mais je n'aurais pas dû faire ça. Parce que le soir, au téléphone, elle avait ouvert son gaz. Et pendant 20 minutes, si ce n'est pas plus, j'ai dû la supplier de fermer son gaz. J'y suis arrivée, mais j'ai jamais recommencé après à dire toute la vérité aux gens qui sont fragiles.
Quelles sont les questions qu'on vous pose le plus souvent? C'est de quel ordre? Est-ce que ça change? D'abord, est-ce que c'est professionnel, sentimental?
C'est sentimental.
Toujours.
Presque toujours. Il y a le travail. Mais vous savez, quand les gens sont heureux sentimentalement, le reste passe.
Il y a de nombreuses années que vous faites ça. Est-ce que vous avez l'impression que les questions ont changé? Les préoccupations des...
Je trouve que le monde a changé en ce sens que les jeunes femmes, maintenant, sont moins victimes. Je veux dire, dans le mariage, n'est pas toujours mauvais. Mais il y a des gens...
Ça, c'est une belle phrase, ça, quand même. Le mariage n'est pas toujours mauvais.
La désillusion pour une jeune femme qui va s'apercevoir que son mari la trompe, il faut quand même essayer de lui faire voir que c'est pas tragique. Mais maintenant, les jeunes femmes de maintenant sont différentes. Elles sont plus armées. Je sais pas. C'est-à-dire, ce qu'elles ont comme principe, ce qu'elles me disent, Il m'a fait ça, ben je vais lui rendre. Voilà.
Bonne ambiance.
Des armées,
alors.
Ça. Alors, est-ce que vous avez des hommes qui viennent vous visiter? Parce que vous parlez
quelques
beaucoup de vos clientes, mais il y a des hommes
quelques
qui viennent.
Heures, oui, quelques-uns.
Et
oui.
C'est pour les mêmes raisons ou c'est plus des raisons professionnelles?
Le travail, mais aussi sentimental aussi. Il y a des gens, il y a des hommes qui sont amoureux de leur femme.
Ça arrive, oui, oui.
Ou de leur maîtresse.
Oui. Ah, ça, oui. Je ne sais pas, mais la femme, oui, ça arrive.
Ah oui?
Personne n'est amoureux de sa maîtresse, si j'imagine, autour de cette table.
Mais, en principe, ce qui domine, c'est le sentiment, quand même. Que ce soit sur les hommes ou chez les femmes. C'est le sentiment.
Mais comment pouvez-vous expliquer, puisque vous nous dites que vous avez un guide, enfin, donc c'est pas un phénomène, comment dirais-je, matériel, votre voyance. C'est quelqu'un qui vous...
C'est abstrait.
C'est abstrait. Donc c'est quelqu'un qui vous parle.
Oui.
Comment pouvez-vous imaginer que quelqu'un, une entité, un esprit, un ange gardien, s'occupe de ce genre de choses, qui descende vers vous pour vous dire, voilà, cette jeune femme qui vient là, son mari est en train de faire des galipettes avec une autre.
Ça se passe pas comme ça. Il y a d'abord le contact qui se fait. Ensuite, je me sers de tarot. J'ai une boule. Et j'ai surtout les mains. Je regarde les mains. Et... quand je suis en contact avec, c'est facile.
Les mains, les lignes de la main?
Je regarde les lignes de la main, mais quelquefois dans la main, il y a des clichés.
C'est-à-dire vous avez comme des photographies qui vous apparaissent, voilà, qui vous viennent aux yeux.
Oui, voilà. Et je préfère faire les lignes de la main à une personne qui est amoureuse, parce qu'elle vient avec une photographie. Et quelquefois, chez le cliché du personnage qu'elle aime... Ah, je suis contente, parce que je me suis aperçue que c'était pour elle réel. Les gens souffrent beaucoup sentimentalement. C'est ce qui domine. C'est ce qui domine, enfin, dans mon métier. Hein.
Mmh. Un auditeur demande, est-il vrai qu'on peut, par l'intermédiaire d'une voyante, rechercher des objets ou des personnes disparues?
Oh, ça, c'est différent. Ça, c'est le domaine du radiesthésiste. Enfin, je peux les aider quand même. Mais c'est surtout sentimental à faire. Santé, je les guide. Je ne suis pas médecin, mais je les guide. J'essaye.
Mais au fond, c'est toujours la même chose. C'est très répétitif, j'ai l'impression.
Oui.
Tous les patients ou les clients qui viennent vous voir ou les clientes vous posent la même ou les deux ou trois mêmes questions.
Oui, il y a aussi les curieux quand même qui veulent voir si la voyance est bonne. Il y a ça aussi quand même.
Est-ce que vous êtes arrivé que quelqu'un vienne vous voir en vous disant « Donnez-moi les chiffres du loto et on partagera ».
Bien sûr, mais ça, c'est pas possible.
Ça marche pas.
Ça marche pas, ça.
Décidément, c'est pas mon truc. Moi, c'est ça que je voudrais trouver, vous voyez. C'est quelqu'un qui puisse me donner les chiffres du loto, ça, au moins, c'est directement exploitable.
Pardon ?
C'est quelqu'un qui me donne les chiffres du loto, c'est directement exploitable.
Oh.
Non.
Je ne ferais pas ça, moi.
Vous ne feriez pas ça.
Ce serait horrible.
Et qu'est-ce que vous pensez, madame, des voyantes qui donnent des prévisions politiques sur savoir si...
Mais je l'ai fait à un moment donné. Pour l'instant, je ne le fais pas.
Pourquoi?
Parce que j'avais une journaliste qui... D'ailleurs, vous avez certainement entendu parler de Simone de Tervagne.
Oh.
Je faisais partie de son contexte. Et alors, elle me demandait tous les ans de faire des prédictions politiques. C'est tout. Je les sais.
Et vous êtes tombé juste, parfois?
Bah, en principe, oui.
Là, c'est quand même la sanction est immédiate, enfin, dans les mois qui suivent. C'est comme pour les hommes politiques, s'ils se présentent aux élections, dans les semaines qui suivent l'élection, ils savent s'ils ont gagné ou pas. Vous savez si vous êtes une bonne voyante.
Ah, bah, c'est-à-dire, il faut une concentration, quand même. Quand on fait des prédictions politiques, on va pas les faire comme ça. On se concentre, on médite, on prie, et on attend l'image. C'est sérieux, c'est grave.
Moi, ce que j'ai du mal à imaginer, c'est le rapport, si vous voulez, entre un domaine qui est vraiment un domaine spirituel et les questions qui sont posées, qui sont des questions vraiment très bassement matérielles. C'est-à-dire, le gars qui vient voir et dit « Je me présente au cantonal, est-ce que je vais être élu ou pas ?» Et j'ai beaucoup de peine à imaginer qu'un ange gardien dise « Tiens, on va lui donner la réponse, ça lui rendra service.
Ah, » bah,
moi, si j'étais ange gardien, j'aurais plutôt envie de l'égarer, le gars.
Ah oui, mais évidemment, que c'est défendu par la religion. Et moi-même, je suis souvent en conflit.
au cantonal ou au régional, parce que nous venons dans le Libre Journal 314 de publier les sondages, et vous allez voir qu'il y a de la place pour la voyance politique, puisque un institut scientifique comme CSA a vendu un sondage sur les régionales à Télé Monte Carlo, et dans ce sondage, je ne vais pas évidemment nommer tout le monde, je prends au hasard Jean-Marie Le Pen, oui, voilà. 24%. Pour le CSA, quand il vend le sondage à Télé Monte Carlo. Quelques jours plus tard, ils vendent le même sondage sur les régionales au quotidien La Provence. Et là, Le Pen a bondi à 30%. C'est-à-dire qu'en quelques jours, il aurait fait un bond de 6 points. Alors moi, je peux ajouter que j'ai rencontré le patron de cet institut CSA pas plus tard que lundi dernier.
Et combien il vous donne alors ?
Et ah, mais il me donne rien du tout parce que je lui dis quand vous faites, monsieur, vous êtes le PDG Stéphane Rosès, vous êtes le PDG de CSA, quand vous faites pour vendre Le Pen à 30% à la Provence et à 24% à TMC.
C'est peut-être pas au même moment.
Il me dit, alors c'est les questions qu'il m'a posées tout de suite. Il est rationnel, lui. Il n'est pas voyant. Il me dit, mais c'était à combien d'écart ? Je lui dis, à 5 jours d'écart. Ben oui. Il dit, effectivement, c'est pas normal. Deuxièmement, il me dit, je n'en sais rien. Je ne fais pas ce que fait mon entreprise à Marseille. Et troisièmement, comme j'ai eu la maladresse de lui faire remarquer que ça mettait sa crédibilité en cause, il se met dans une colère épouvantable et il me dit, vous ne savez pas lire, vous n'avez pas lu les bonnes données, les données dont vous me parlez sont fausses. Et il évacue le problème comme ça, en criant, en se mettant en colère. Alors voilà, et on sait très bien que à toutes les élections, on remarque que les instituts de sondage se plantent de 6, 7, 8, 9, 10%. Alors pourquoi Mme Védrine ne leur ferait-elle pas une concurrence très heureuse ?
Pardon ?
Oui, il vous propose de remplacer les instituts de sondage. Ce qui me paraît, effectivement, ce serait plus économique, probablement.
Oui.
Parce que les sondages, c'est très très cher. Oui. On reproche souvent aux voyantes d'être très chères.
Il faut pas voler les gens quand même.
Mais les instituts de sondage sont beaucoup plus chers et je me demande si c'est beaucoup plus fiable.
Écoutez, il vient de paraître un guide. Il paraît des guides quand même. Vous avez une journaliste qui vient, elle vous fait demander une voyance, elle fait un reportage, elle vous classe selon qu'elle pense que vous êtes et vous dites vos prix. Il faut être raisonnable quand même.
Mais madame, vous avez dit il y a un instant qu'il vous arrivait de ne pas dire l'exacte vérité que des gens sont venus chercher pour éviter des complications, des incidents. Alors là, il y a
les gens sensibles.
Ah oui, j'entends bien, madame. Mais alors là, je comprends mal parce que.
Mais vous avez envie, ou si vous allez voir une voyante, d'apprendre tout de go que, en sortant, vous allez être renversé par un autobus?
Non, je me pose la question. À ce moment-là, on m'a pas vendu ce que je suis allé acheter.
Vous allez squatter le salon d'attente de la voyante jusqu'à l'extinction de la malédiction. Non, moi je crois que c'est très intéressant. C'est un sujet qui m'a toujours passionné, la voyance.
Ce qui est troublant, c'est qu'il y a des tas d'hommes politiques, pour ne citer que deux très connus, De Gaulle et Mitterrand, qui ont consulté des. Qui donc,
Madame Fraya.
Oui, mais qui ont consulté régulièrement des voyantes.
Simone de Tervagne et Madame Fraya, c'est connu.
Et puis il y avait Béline, le voyant. Béline. Vous l'avez connu, Béline, Madame Fraya.
J'ai fait des voyances sur la tombe de Madame Fraya,
oui.
Qu'elle a reportée dans un de ses livres, Simone de Tervagne.
Oui, oui.
Mais vous savez, la voyance, il y a des gens qui ne savent pas où aller. Ils viennent, les voyants les écoutent, s'occupent d'eux, les remontent. C'est pas toujours inutile.
On appelle maintenant l'assistance psychologique qu'on dépêche.
Vous êtes une cellule de soutien psychologique.
Moi, je ne parle pas de psychologie, je ressens.
Non, mais vous en faites, même si on n'en parle pas.
Non, c'est de la voyance. Parce que la personne qui est en face de vous, elle dégage des ondes. Ces ondes, vous les sentez, vous êtes médium, vous prenez ces ondes. Quand elles sont douloureuses, vous essayez de l'aider. Et quand elle part, vous savez que vous avez fait tout ce qu'il était possible pour la rassurer, la guider. Voilà.
Plusieurs auditeurs demandent si on peut donner votre numéro de téléphone.
Est-ce que vous voulez donner vos coordonnées ?
Eh bien, je vous donne mon numéro de téléphone.
Voilà, comme ça.
Marie Védrine.
Donnez-le plutôt au micro qu'à Victorien.
Oui.
Ah oui. 42-06-51-05.
01-42-06-51-05.
Voilà.
Eh bien, les auditeurs qui sont intéressés peuvent prendre contact avec vous. Ils verront d'abord une dame qui a des yeux extraordinaires. Ça, je dois dire que...
Extra-lucide.
Extra-lucide. Merci beaucoup, Madame Védrine.
C'est moi.
Et voilà, nous sommes prêts. Clac. Ça, il faut quand même que je dise que c'est que ce bruit, parce qu'on va croire que quelqu'un m'a battu. C'est une bouteille d'eau minérale qui claque, une bouteille d'eau minérale en plastique qui claque quand elle reprend sa forme initiale, après qu'on eut bu.
Comme disait, le roi, ouais.
Comme disait Fred Jarry. Mon cher Marquis, vous allez nous donner... Bah oui, alors on va donc peut-être envoyer la musiquette.
Oui, quand même, envoyer un peu la musiquette.
Qui présente votre minute. Je ne me lasse pas de cette musiquette, c'est la
Veuve Joyeuse.
La Veuve Joyeuse de Mary Widow.
Voilà.
Alors, mon cher Marquis, quoi de neuf dans le beau monde ?
Vous m'avez carrément, quasiment tiré de chez moi, parce que j'ai été malade, alors je suis venu quand même. Oui, je vous dis tout.
C'est héroïque.
Oui, mais je vais vous le dire. Invité par le bas clergé à dîner, j'ai eu l'impression en sortant d'avoir été traité chez les Borgia. Et je pense que l'église gallicane a failli être décimée. Ça, il y avait un coup monté, là.
C'est un coup d'État au sein de l'église gallicane.
Oui,
chancelier.
Tout le monde a survécu.
Vous êtes chancelier, c'est le saint Adolphe, c'est un anniversaire spécial.
J'envisageais un peu titiller mon archevêque pour qu'il dise une messe pour la saint Adolphe, il n'était pas très partant.
Ah bon, hein, bon, pourquoi Adolphe, c'est un très joli prénom.
Oui, mais statistiquement, il n'y en a pas assez. On va attendre un peu quand ça va revenir. On dira des messes
pour quelqu'un d'autre.
Voilà, n'égarons pas nos pensées. Mais je suis quand même sorti hier soir pour aller dans un dîner assez élégant, et je voudrais tirer, avant d'être un peu méchant tout à l'heure, un coup de chapeau à la dame qui organisait ce dîner. C'est une dame qui est la baronne de Saint-Didier de Narbonne-Lara, qui préside une association qui s'appelle les Saints Anges et qui est un petit peu les orphelins d'Auteuil en plus petit. Et cette dame a hérité cette association par mariage, puisque c'était dans la corbeille de mariage de son mari. Et cette dame, qui est d'origine argentine, se dévoue beaucoup pour cette œuvre. Et il y a quelque temps, comme elle a eu l'idée de faire des dîners de charité, ça a agacé ceux qui sont les professionnels des dîners de la charité. Donc on lui a cherché beaucoup de poux dans la tête, et comme elle a la tête propre, ils n'y sont pas arrivés. Et bon, on a été quelques-uns à la soutenir quand tout le monde la lâchait. Donc aujourd'hui, eh bien, tout fonctionne très bien. Et je voulais la saluer et lui dire que nous l'aimons beaucoup. Et j'ajouterais que la vice-présidente de son association, c'est notre ami Dominique Paoli, et que par conséquent, c'est quand même un gage de garantie. Voilà. Donc, mon coup de chapeau étant rendu, je donne une toute petite anecdote, puisqu'on est en période
Mais, attendez, je voudrais revenir les Saints Anges. Elle pourrait pas aider un petit peu Riomont, cette association-là?
Elle s'aide déjà elle-même, ce sont des écoles. Alors, quand elle récolte des fonds, c'est pour son école.
C'est ce que je n'avais pas compris.
Non, mais on peut toujours faire un consortium, de la charité.
Je crois qu'il faudrait donner un petit peu de sous à Riomont.
On va en parler.
Ils font du très beau travail.
Bien sûr, mais madame de Saint-Didier aussi, elle prend de l'argent pour son école.
Je me doute bien qu'elle prend pas de l'argent pour ses chapeaux et ses voilettes.
Non, mais elle est très élégante.
Je ne savais pas que c'était une école. Je croyais que c'était une association qui récoltait de l'argent
pour le redistribuer. Elle-même est association.
J'essaie toujours de placer mes pauvres à moi.
Non, mais je comprends très bien. Un mot sur la laïcité. Alors, je vais vous lire ça, c'est très amusant. Sous le haut patronage de Monsieur Jean Tibéry, maire du 5e arrondissement de Paris, l'association européenne de Saint-Vladimir vous invite à assister à la projection du film Le silence des anges en présence du réalisateur. Alors, le film, c'est de Kiji à la Trinité Saint-Serge en Russie, en passant par la Syrie, l'Éthiopie, l'Égypte et la Grèce. Une odyssée sans précédent au cœur de l'orthodoxie à travers ses rites, ses liturgies et ses musiques. C'est un film admirable, présenté sous les ors d'une mairie de la République en pleine période de laïcité. Merci, monsieur Tibéry.
Non, mais Tibéry, il n'est pas vraiment très, très, très laïque.
Non, mais non, j'entends bien. Mais
les Corses laïques, ça se fait pas beaucoup.
Voilà, ça m'a amusé.
En plus, c'est vrai qu'en Corse, il y a un magnifique village orthodoxe.
Bien sûr. Alors, c'est une des raisons. Ouais. Mais c'était très bien. Et alors, le lendemain, pour répondre à un de mes amis de province, je vais à la procure pour chercher un livre de messe en araméen et si possible doublé en français comme le sont les missels. Et la personne qui m'a reçu la section étranger ne savait pas ce qu'était l'araméen. Voilà, je vous le dis. À la procure, je précise. Alors maintenant, j'ai le droit à mon coup de colère.
Et oui, je voudrais simplement faire une parenthèse à propos de Tibéry, si vous permettez.
Oui, je vous en prie, d'être chez vous.
Vous savez que... Le 21 novembre, monsieur le maire de Paris,
Notre-Dame de Paris,
Notre-Dame de Paris,
oui,
avait organisé une grande soirée de, en l'honneur du Ramadan.
Oui.
Alors, comme je suis un emmerdeur, tout à l'heure, j'ai envoyé un message à la, au cabinet du maire en disant, voulez-vous m'indiquer à quelle date se passera la grande soirée en l'honneur du carême, puisque mercredi décembre. Si, j'ai eu une réponse. Le service de presse est fermé, la titulaire est absente.
Ah oui.
Voilà. Donc, je ne peux pas vous répondre quand.
Et le maire non plus n'a pas répondu.
Non, le maire n'a pas répondu.
Le maire, il est souvent dans les cabinets, je crois.
Je pense qu'en fait, j'ai vérifié. Je crois que c'est le dans le Coran 56. 56, 23, 24 ou 10, 26, 27, je me souviens plus exactement les.
C'est le téléphone du prophète.
Le téléphone du prophète, mais où il est dit que au paradis il y a des jeunes houris, comme,
oui,
comme vous le savez,
mmh,
et des jeunes éphèbes.
Des ouras, ceux-là.
Des ouras. Oui.
Hip, hip, hip.
Et donc parce qu'il n'y a pas ça dans l'Ancien Testament.
Non,
hein.
Non.
Donc je comprends que monsieur le maire de Paris ait préféré célébrer le Coran,
rester dans les cabinets,
se tenir au Coran plutôt que de s'occuper des.
Ben oui.
Le Vieux Testament, qui est un vieux truc, ça doit pas l'intéresser.
Hétérograve.
Hétérograve de chez Grave,
voilà.
C'est ça que je voulais dire.
Bah, écoutez,
donc il
n'y
aura pas de fête, je le signale à nos.
Pas de teuf pour le carême.
Il n'y aura pas de teuf pour le carême.
Tant pis. Alors je peux avoir mon coup de gueule là maintenant.
Oui.
Alors c'est en feuilletant un point de vue que j'ai eu un coup de gueule. Vous n'ignorez pas qu'une comédienne gaucho, faut n'ayons pas peur des mots, facile, de mœurs, mademoiselle Claudine Courau, est devenue son Altesse Royale, la princesse de Savoie. Elle aurait pu après se...
Mais ça se voit.
Oui, ça se voit, oui. Et donc elle est princesse de Venise, puisque par dérision, le grand-père du Filiberto lui avait pas donné le titre habituel de duc des Pouilles, puisque sa mère était championne de ski, donc il n'a pas fait duc des Pouilles. Il en avait fait le prince de Venise, ce qui est déjà une connotation Louis Mariano et le Châtelet. Et voilà que Clotilde Courau, qui est devenue Altesse Royale au cours d'un mariage digne de Disneyland, il n'y a plus que là qu'on fait des mariages comme ça.
Et bien, le prince de Venise, il la coule douce.
Oui, c'est ça, quelque sorte, oui. Oh, ben oui. Et il a souvent coulé d'ailleurs avant. Et voilà qu'elle crée au théâtre, enfin qu'elle reprend au théâtre une pièce de Bernard Shaw, de la Comédie des Champs-Élysées, La Profession de Madame Varenne. Ben moi, je trouve ça lamentable. Je pense que Altesse Royale, mariée, elle devrait s'occuper d'œuvres caritatives et non pas aller jouer au théâtre et laisser la place à des comédiennes qui ont du talent et qui ont du mérite.
Et surtout qu'elle est très enceinte, non?
Ben, elle est, le bébé est même fait.
Ah bon?
C'est parce qu'elle s'est mariée, il était enceinte de 6 mois et le couturier a réussi à faire une robe blanche merveilleuse qui mettait en valeur sa grossesse. Généralement, on faisait l'inverse, mais enfin là, c'était un des arguments de vente. Donc voilà. Et il y a d'ailleurs une très belle photo dans Point de Vue où elle arrive au théâtre avec le.
Qu'est-ce que vous avez dit son Altesse.
Son Altesse, qu'est-ce que j'ai dit?
Sa grossesse.
Ah oui, sa grossesse, oui. Parce, oui, alors son Altesse royale, la princesse Filiberto de Savoie, dans Dites Clotilde Courau, ou l'inverse, ce que vous voulez. Il y a une très jolie photo, elle arrive au théâtre avec le bébé dans un Moïse, parce qu'elle n'a même pas les moyens d'avoir une nurse, c'est quand même très grave. Alors je m'étonne qu'il n'y ait pas quelqu'un au syndicat des comédiens qui s'indigne de ce genre de truc, puisque quand même, ça me paraît tout à fait anormal.
Attendez, le prince de Venise, c'est.
Oui, non, c'est le Châtelet.
C'est ça,
on a tellement comparé Clotilde Courau à Grace Kelly que je pense qu'elle aurait pu faire comme Grace Kelly, c'est-à-dire faire des charités.
Ça, c'est pour les photos en braille, là.
Oui, voilà, c'est ça, exactement.
Il y a confusion.
Alors, pendant que j'y étais, bon, on va rester là avec cette malheureuse. Et alors, non, ce qui m'ennuie, c'est que forcément, la pièce va avoir un succès considérable. Personne ne saura que c'est de Bernard Shaw, personne ne saura le nom des partenaires, et on va recevoir Clotilde Courau partout, chez Ardisson, chez Berne, parce qu'il y a cette espèce d'amalgame qui est insupportable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On est Altesse
Royale. Vous n'allez pas l'inviter ici.
Pardon?
Vous n'allez pas l'inviter?
Non.
Non.
Vous laissez entendre que c'est un mariage publicitaire ou j'ai mal
compris? Non, mais c'est un montage théâtral publicitaire. Oh non, le mariage, c'est un mariage d'amour.
Ah
on en avait la preuve, 6 mois, c'est beaucoup quand même. Un mariage lourd. Alors, en feuilletant toujours Point de Vue, j'avais envie de dire à monsieur Houssin, je crois que c'est le nouveau directeur, on voit que ça a changé, là où j'ai noté ça, Xavier Houssin, qu'il faudrait quand même, quand on se veut être le machin du Gotha et comparer toutes les semaines et que ça se vend à beaucoup d'exemplaires, faire attention à ce qu'on fait. Alors, dans les pages People, les vertus du cœur, là encore, au théâtre, pour la musiviquitose, on reçoit des tas de gens. C'est mademoiselle Myriam Feun de Colombie, ancienne de la Comédie Française, elle a bien fait d'arrêter d'être comédienne, et qui dirige le théâtre Montparnasse, recevait à l'occasion de la générale de sa nouvelle pièce, et son mari, de 125 kilos, papillonnait dans tous les coins. Son mari, c'est monsieur Villegrain, qui était l'héritier des grands moulins de Pantin. Ce qui fait que quand il a épousé Myriam Feun de Colombie, on l'avait baptisé la belle meunière. Et je découvre dans ce journal qui se veut sérieux que M. Villegrain est devenu M. Bertrand de Villegrain. Voyez-vous, c'est un accélérateur de particules.
Depuis peu, non ?
Depuis peu, oui. Et puis alors, la page suivante, alors dans le même genre, là c'est le pompon. Je vous rappelle qu'en France, où il y a une loi salique, les princesses du sang sont titrées à la naissance, sinon une femme ne peut être titrée que par le mariage ou par le veuvage. L'usage veut aussi qu'une femme mariée, lorsqu'elle divorce, elle reprend son nom de jeune fille, mais à la place de mademoiselle, on met madame. Maintenant, il y a une mode, on prend le titre du papa à la place de madame quand on est divorcé. Donc, Philippine de Rothschild, à cause d'Épinard, elle est connue dans le monde entier, qui fut, sous un pseudonyme qui vient de m'échapper, une brillante comédienne à la Comédie française, a épousé Jacques Cérès, de qui elle a eu 3 enfants. Bon, donc à la ville, elle est madame Jacques Cérès. Alors, je sais pas s'ils sont divorcés ou pas, je sais qu'ils sont séparés. En tout cas, elle est devenue maintenant la baronne Philippine de Rothschild. J'ai écrit 50 fois à Point de Vue qui m'a dit oui, mais enfin, c'est les usages mondains, c'est pas les usages. Et voilà que je découvre dans le journal, elle est en photo avec son copain, avec son camarade de jeu, parce qu'elle est séparée de son mari, elle a un camarade de jeu, qui est un descendant de Beaumarchais. Et alors, sous la photo de Philippine de Rothschild à l'inauguration du drugstore, je lis la baronne Philippine de Rothschild et son mari. Alors, elle n'est pas comtesse de Beaumarchais, et monsieur de Beaumarchais, par le mariage, est devenu baronne de Rothschild. En fait, je comprends plus très bien.
À mon avis, c'est le drugstore qui explique tout.
Voilà, oui, c'est d'ailleurs un endroit horrible.
Philippine mérite une amende.
Voilà, exactement. Alors bon, c'était mon petit coup de colère contre Point de Vue. Je braille contre Point de Vue, si vous voyez ce que je veux dire.
Voilà. Point de Rue, image d'immonde. Oh, voilà.
Alors ils vont m'écrire pour me dire, vous rouspétez parce que vous n'êtes pas dans Point de Vue.
Oui.
Bah, j'y étais.
C'est vrai.
J'y étais de l'ancienne direction. Mais un jour, j'ai cassé la gueule à un photographe qui était grossier avec moi, je dirais pas son nom, mais depuis, je n'y suis plus jamais.
Voilà. Qu'est-ce que vous croyez, qu'on peut frapper impunément un journaliste ?
Oui.
Ah bon.
Ah pardon. Non, un photographe, pas un journaliste.
Ah oui,
c'est, oui, c'est pas la même chose. Voilà.
Merci Marquis, c'est tout ce que vous n'avez personne d'autre à agonir, non ?
Oh, je vous en garder pour la prochaine fois. Quand
bon,
même,
hein, voilà, oui. Et puis ceux qui aiment ça peuvent le lire aussi dans le Libre Journal où nous avons maintenant la minute écrite du Marquis.
Oui, comme ça sera encore plus facile à repérer. Alors,
là, vous êtes perdu de réputation.
Très bien, les gens qui, bien qu'ayant dîné chez les Borgia, j'ai survécu. Donc ceux qui m'invitent à dîner pour me flinguer, méfiez-vous, c'est pas pour demain.
Un estomac d'autruche, cet homme-là. Même les curés n'arrivent pas à l'empoisonner.
Ah oui, c'est vrai. Archiduc d'autruche.
S'il est malade, vous lui administrerez une médication.
Oui.
Comment allez-vous, docteur Dor?
Écoutez, ça va très bien. Ça va très bien.
Bonjour.
Et je suis toujours heureux de ce privilège donc d'être ici.
Mais c'est nous qui sommes heureux d'avoir le privilège de vous recevoir.
Ah bon. Mais alors, un privilège dont je profite pour vous dire évidemment des choses.
Désolé.
Si vous permettez, je commence tout de suite. Je voulais dire deux choses, puis après une troisième. Mais la première, donc, il s'agit d'un anniversaire, le 30e anniversaire de Leveil. La deuxième, je voudrais dire quelques mots sur le politiquement et le religieusement correct. Et enfin, en troisième position, je voudrais parler de nos manifestations. Voilà, si.
Eh bien,
voilà,
vous
le
avez
même,
la
si
parole.
J'ai plié. Alors, mon Dieu, 30 ans de la loi Veil, c'est bientôt, enfin, c'est pas tout de suite, mais c'est l'année prochaine, puisque elle a été appliquée le 17 janvier 1975. Il y aura donc 30 ans le 17 janvier 2005. Et si on fait un bilan, je ne parle pas de ce qui s'est passé pour les âmes, ça j'en parlerai peut-être dans cette deuxième partie, mais pour ce qui est du dépeuplement, alors je crois qu'il est temps de dresser un bilan précisément. Eh bien, d'après les chiffres officiels, en gros, je dirais, on peut estimer à 200 000 environ les avortements reconnus par an en France. Alors, c'est d'ordre de 220 000 à 230 000 actuellement. Avant, c'était un peu moins. Enfin, en gros, ça pourrait être ça. Donc, il y a en gros 6 millions d'avortements en 30 ans. Ce qui est déjà un chiffre considérable. Mais ce chiffre est peu important, à côté de la réalité, qui est d'ailleurs très difficile à évaluer. Pour quelle raison ? C'est que d'abord, tout n'est pas déclaré, et ensuite, c'est que la contraception est elle-même souvent abortive. Ça, je dirais, on ne le lit pas beaucoup, Mais les choses apparaissent de plus en plus, quoi qu'elles soient cachées, non pas d'ailleurs toujours de la volonté de ceux qui veulent les cacher, mais c'est que comme avec la contraception abortive, l'avortement est tellement précoce, la femme elle-même ne sait pas qu'elle fait un avortement. Et alors, on pourrait, mais ça c'est un point d'interrogation, et c'est peut-être davantage que ce que je vais dire, il faudrait multiplier ces chiffres, donc de 6 millions, au moins par 5 ou 6. Ce qui ferait au minimum 30 millions de morts, 30 millions d'avortements depuis la loi Veil. C'est-à-dire que si tous, vous me direz, ce serait incroyable, évidemment, on rêve, mais si tous avaient survécu, ça ferait au moins 90 millions de Français, sans compter, parce que c'est plus qu'une génération, sans compter tous ceux qui, dès l'âge de 20 ans, 25 ans, enfin ça dépend, on se marie peut-être un peu tard, mais ils auraient déjà des enfants eux-mêmes, nous serions une population de 100 millions en France actuellement. Si cette loi Veil n'avait pas existé, s'il y avait eu une politique familiale digne de ce nom, et non pas une politique anti-féminine et anti-nataliste comme elle a été faite, eh bien nous serions la première population d'Europe, je dirais vivante, regardée je crois par tout le monde, heureuse de vivre, heureuse d'être, mais non, il fallait faire autrement, il fallait tuer nos enfants. Alors,
la Turquie ne risquerait pas d'être le premier
pays. Et la Turquie, alors évidemment, on peut le voir de bien des façons, c'est-à-dire que si nous étions si nombreux, bien entendu, l'émigration ne se poserait pas dans ces termes, à mon avis les retraites non plus, parce qu'il y aurait des décotisants, de même le chômage, puisqu'on compte, si je ne dis pas de bêtises, 3 ou 4 enfants pour un emploi. C'est-à-dire que l'existence de ces enfants-là détermine un emploi. Il faut bien des berceaux, il faut bien une école, des professeurs et tout ça. Tant et si bien que c'est une folie, c'est un suicide. Et pour quelle raison? Alors là, j'en arrive à la deuxième partie qui est proprement incroyable. Mais pourtant, nous vivons dedans sans le voir. On peut définir très rapidement le politiquement correct et le religieusement correct. C'est pas très facile à prononcer. Eh bien, le politiquement correct mène la danse et le religieusement correct, ce qui est peut-être pire, ferme les yeux et comme s'il acceptait l'inacceptable. Alors, pour ce qui est du politiquement correct, eh bien, le droit à l'avortement va de soi. Je me souviens, ce n'est pas du tout pour le charger, parce qu'il est déjà assez chargé actuellement, mais il est tout à fait représentatif des hommes politiques de l'époque, de notre époque. Juppé parlait, je l'ai entendu il y a 3 semaines, un mois, parler du droit à l'IVG. Mais je dirais, ça allait de soi. Il n'a pas sourcillé, ça coulait de source. Alors, c'est là qu'est la folie. Comment des gens intelligents, des gens cultivés, des gens diplômés, des gens investis de pouvoir, puissent dire des choses pareilles, sans même, je dirais, y voir d'inconvénients. Car toute la folie est là, elle est dans ces trois mots. Le droit à l'avortement. Car quand on y réfléchit, c'est le droit au meurtre. Or, que je sache, le meurtre est poursuivi par le droit. Et encore plus par le fondement du droit qui protège les plus petits et les innocents. C'est même le fondement du droit, car je dirais le fort il se défend, le faible est à défendre. Donc le fondement du droit, c'est le fondement de toute civilisation, c'est évidemment la défense du plus petit, du plus faible. Donc on dit une chose et son contraire en même temps. À ce moment-là, je dirais, nous sommes en pleine aberration, n'est-ce pas? Et nous tombons dans le monde d'Orwell. Et on s'en aperçoit même pas, c'est-à-dire 2 plus 2 égale 5. Ça n'a pas de sens. Et alors, vous savez que pour tenir justement une telle aberration, eh bien, il faut conditionner et il faut terroriser. Et c'est ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire que nous vivons dans une espèce de stratosphère qui n'a plus rien à voir avec la réalité. On tue à tour de bras, comme je viens de vous le dire, on se suicide, on rembourse le suicide. Alors ceci dit en passant, les socialistes, leur politique, c'est tout rembourser, y compris le crime. Ça, il faut le dire, les choses comme elles sont. Yves Étroudi était c'est une franc-maçonne du Grand Orient, tout ça. Enfin, j'en reparlerai très vite tout à l'heure. Je dirais, vous connaissez la phrase d'Orwell dans 1984, et le livre a paru en 1949, mais le roman s'appelle 1984, et il dit ceci, vous savez ce que dit Big Brother, c'est très connu, 2 plus 2 égale 5. Et alors il ajoute, c'est extraordinaire, je ne veux pas que vous le disiez, je veux que vous le pensiez. Alors c'est là où nous avons cette mainmise du politiquement correct, on pourrait le définir de cette façon-là. On pourrait le définir. Et alors, il s'agit véritablement d'un terrorisme de la pensée. Un terrorisme, peut-être, encore pire que le que d'autres. Pourquoi? Parce que c'est la femme elle-même qui se présente au centre d'avortement. On ne va pas la pousser dans un camp de concentration. C'est d'elle-même qu'elle y va. C'est-à-dire qu'elle est poussée, elle est conditionnée. Et on va même la rembourser, on la tire. On lui dit que c'est bien, que c'est digne, que c'est son droit de femme. Qu'enfin, on lui fera un tapis rouge et tout ça. Bref, il y a une folie généralisée. Alors, quels sont les responsables de tout ça? Alors, vous le savez bien, ce sont les Lumières. Il faudrait jouer. Enfin, avant les Lumières, c'est le péché originel. Les Lumières, c'est pas autre chose que le péché originel. Mais on peut le définir très, très simplement. Moi, je dirais que les Lumières, c'est l'homme avant Dieu. Ou alors, on peut le dire d'une façon philosophique, c'est la liberté avant la vérité. Je crois que les deux expressions n'ont pas souval, parce que la première est la plus grande, n'est-ce pas, l'homme avant Dieu, et la vérité, et la liberté avant la vérité. Donc c'est la tête en bas. Et alors, le déicide, tout le monde le sait évidemment, le déicide, je dis, a commencé avec la Révolution française, et avec donc ce fameux article 3, puis l'article 6. L'article 3, je ne sais pas, c'est celle du 1789, je ne sais pas si on le sait, est de Barnave. Moi, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Cet avocat grenoblois, qui a été raccourci à Grenoble, qui était devenu l'ami de Marie-Antoinette, mais enfin le malheureux. Et alors il disait ceci, l'article 3, vous le connaissez évidemment, tout principe de souveraineté réside essentiellement dans la nation. De Dieu, il n'en est pas question. Et puis alors, l'article 6, emprunté à Rousseau, tout le monde le sait aussi, la volonté générale, enfin dans le contrat social, la loi est l'expression de la volonté générale. Alors, donc, après la Révolution, qui a pris la relève? Eh bien, c'est le Solvay et Coagula des francs-maçons. Je dirais, tout le monde sait que les francs-maçons sont à l'origine de la Révolution française, puisque ça a été dit souvent. Marie-Antoinette, lorsqu'elle en parlait, on l'interrogeait, elle disait, ils en sont tous. N'est-ce pas? Donc, ils étaient à la Révolution française, ils sont nés avec les Lumières, enfin, ils étaient déjà là, dans les tapis, peut-être, mais enfin, ils appellent ça, les Lumières, et puis, on les retrouve maintenant, depuis 1717, Solvay et Coagula. Je pense que ce sont là les... Donc, la Révolution permanente des anarcho-trotskistes et le Solvay et Coagula des francs-maçons. Alors, je dirais une petite chose sur les partis politiques. À mon sens, la gauche pourrait être définie de façon très simple, puisque nous en sommes aux définitions. Tout à l'heure, j'ai parlé des Lumières. Parlons un peu de la gauche en deux mots, mais très rapidement. Ce qui définit la gauche, c'est tout simplement ceci. Elle ne reconnaît pas d'ordre qu'il soit supérieur. La gauche n'obéit qu'à elle-même. La gauche n'obéit qu'à elle-même. La droite est un peu différent. La droite, elle obéit, elle reconnaît un certain ordre des choses.
Le banquier.
Et elle obéit à... Mais, je dirais, sa première idée, c'est de trahir. Donc, la gauche, c'est l'inversion, et la droite, c'est la trahison. C'est encore pire. Moi, je pense que le travail de la droite, qui, elle, en principe, est censée tenir la vérité et reconnaître la vérité qui est en dehors d'elle et pas seulement d'elle, je dirais, eh bien, je pense que la trahison de la droite est pire que l'inversion de la gauche. Disons tout de suite que l'inversion, c'est pas autre chose que le satanisme. C'est satanique, disons. Sataniste, c'est encore autre chose. C'est la religion de Satan. Mais parfois même, ils ne savent même pas qu'ils sont de Satan. Mais c'est tout simple à voir, n'est-ce pas, quand on renverse le décalogue, quand on rejette Dieu, quand on peut jurer par son nom, loin d'honorer son père et sa mère, on les tue, lorsqu'on tue les plus petits, lorsqu'on fait l'adultère, tout ça. Enfin, je dirais, c'est tête en bas, et bien entendu, c'est le décalogue à l'envers. C'est évidemment, si c'est pas satanique, alors là, je veux bien me prendre. C'est la preuve même que Satan existe, et qu'il a des disciples très nombreux, et mon Dieu, donc, qui sont à l'origine de cette culture de mort. Quant à la droite, alors la droite, donc, elle est censée connaître la vérité, la reconnaître, mais encore une fois, elle a rien de plus pressé que de lui tourner le dos, alors c'est encore pire. Moi, je pense que le travail de la droite est encore pire que la gauche. Après tout, que le franc-maçon, que les socialistes, que tout ça, tuent nos enfants en rang serré, c'est leur programme, c'est leur liberté, je sais pas quoi, leur dignité, tout leur cinéma, leur compassion, ils déguisent ça très bien, n'est-ce pas? Donc, c'est la culture de mort franche. Mais alors, eux, si vous voulez, c'est le... je trouve ça pire. La droite, n'est-ce pas? Eh bien, il faut...
Mais c'est pas des convictions, c'est de la lâcheté, là, c'est autre chose.
Voilà. Oui, mais c'est la lâcheté, c'est la trahison. C'est Pilate, on se lave les mains. N'est-ce pas? On se lave les mains de ça. Je ne suis pas coupable de ça. Et je dirais que tous les morts actuellement... Moi, quand je vois un député UMP, je lui dis, monsieur, il y a 1000 morts. Et même maintenant, je vais lui dire, avec la contraception abortive, ça fait 3000 morts par jour. Je ne me gêne pas pour le dire. Alors maintenant, j'en arrive à la... Peut-être ce qui est pire. Enfin, vous allez me dire que j'exagère, mais peut-être pas tellement. Hélas. C'est le religieusement correct. Alors là, Parce que là, comment dire, la politique, mon Dieu, après tout, ils sont philosophes, tout ce que vous voulez, mais la politique est quand même, c'est le domaine naturel, je veux bien, mais là, nous tombons dans le domaine même de Dieu, puisqu'il s'agit de religion. Alors là, la trahison est encore pire, à mon avis, puisqu'on est encore plus haut. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce que je vois, ce que tout le monde voit, ou alors je n'ai pas d'oreille, je n'ai pas d'yeux, je ne comprends pas, mais comment se fait-il que dans nos paroisses, je n'ose pas donner des précisions, mais comment se fait-il que dans nos paroisses, on ne veuille pas parler aussi rarement des plus petits? On les tue en serré, donc c'est le travail de la gauche, c'est le travail de la droite, mais là l'Église reste sur son camp à soi. Je disais tout à l'heure, elle ferme les yeux. C'est incroyable, c'est incompréhensible, mais il y a un sujet dont il ne faut surtout pas parler, un sujet tabou, un sujet qui peut déranger, qui peut gêner, les gens rougissent, les gens vous prennent pour un malpropre, mais comment vous parlez de... Mais vous condamnez les femmes. Moi je me souviens, j'ai déjà plusieurs fois raconté cette histoire, mais je lui en veux pas d'ailleurs pour ça, mais il est assez représentatif. Il est mort maintenant, et que Dieu ait son âme. J'ai été reçu par l'évêque de Bobigny. Il est mort il y a 3 ou 4 ans, je crois. Ou plus que ça, peut-être. Il est mort, je crois, on peut le dire maintenant, je crois, d'un cancer du côlon. Je ne suis pas son médecin, mais je pense que c'est ça. Et quand il m'a reçu, je l'ai trouvé d'ailleurs très, très pâle, très, très petit, il est de petite taille, tout mince, et il m'a fait plutôt de la peine, je dirais. Mais j'ai aussi beaucoup apprécié qu'il m'ait reçu. Parce que beaucoup d'évêques, auxquels je demande peut-être de, plus maintenant, enfin je leur demande de me voir, ça ne s'intéresse pas tellement. Donc je dirais honneur à lui, et puis j'ai prié pour lui, enfin vous allez voir ce qu'il m'a dit. La première chose qu'il m'a dit, peut-être vous le savez déjà, vous condamnez les femmes. Et alors je me suis mis à genoux et je lui dis, mon Seigneur, on n'y a même jamais pensé. Et je suis sûr d'une chose, c'est qu'il ne m'a pas cru. On s'est quitté au bout d'un moment, et j'ai prié pour lui, j'ai pensé à lui, je ne l'ai pas oublié. Enfin, vous dire la position de l'Église par rapport à nous, c'est peut-être pas très intéressant, mais par rapport à l'avortement, là, je trouve que c'est horrible. Comment se fait-il que les bergers n'aient pas... alors que l'Évangile est fait pour les plus petits. L'Évangile est fait pour les plus petits et pour ceux qui leur ressemblent. Comment se fait-il que les bergers n'aient pas un œil, au moins de miséricorde, je ne sais pas, même un œil furtif sur ces petits qui disparaissent à l'ordre de 3000 par jour? Je n'invente rien. Je voudrais que ce soit beaucoup moins, bien entendu, je voudrais que ce soit zéro. On parle souvent de croissance zéro, ça doit être zéro. Mais là, c'est effrayant, n'est-ce pas? Et ça continue tous les jours et davantage, certainement. Et comment se fait-il qu'il n'ait pas, je dirais qu'il ne soit pas aux aguets, qu'on ne sonne pas le tocsin, qu'on ne sonne pas le glas pour enterrer toutes ces petites dépouilles, tout ça. C'est effarant. Alors, je ne comprends pas ce religieusement correct.
Mais je voudrais, pardon de vous couper, mais je voudrais vous poser une question. Ça fait très longtemps que vous venez dans cette émission. On a déjà eu souvent cette conversation.
C'est vrai.
Et moi, j'ai toujours été surpris que vous ne vous montriez pas plus sévère à l'égard. Parce que pour moi, les évêques sont mille fois plus coupables que les francs-maçons ou que les...
Mais c'est un peu ce que je pense aussi.
Ou que les
mais je vais vous dire, c'est ce que je pense. Par exemple, une fois que les francs-maçons soient francs-maçons. Bon. Après tout, c'est leur... Mais les évêques, ils ont un rôle, je veux dire, ils ont un rôle de berger. Tout le monde les attend comme berger. Or, s'ils ferment les yeux quand on tue les plus petits, mais je dirais, ils trahissent. Mais et donc, tout temps de mort, c'est 30 millions de morts.
Vous savez pourquoi?
Mais je dirais, ils ont du sang sur les mains. On ne peut pas dire le contraire.
La réponse à cette question, il l'a donnée. L'évêque qui vous a reçu, il l'a donnée quand il vous a dit, vous condamnez les femmes. C'est-à-dire que la situation actuelle de l'Église, c'est que les responsables de l'Église se disent, si on attaque l'avortement, on va perdre nos derniers clients.
Voilà, c'est un peu ça, peut-être. Ils ont peur.
Pour aller dans le même sens, vous dites la situation actuelle de l'Église. Mais je vais vous raconter une anecdote qui date de l'après-guerre, qui m'a été racontée par Pierre Lemaire, le patron de Tecky à l'époque.
C'était un personnage extraordinaire.
Et aussitôt la guerre, compte tenu de l'état de la France, hein, il avait fondé un grand mouvement des pères de famille qui faisait des conférences, mais réunissant des milliers de personnes dans la France entière. Et lors d'une conférence qu'il avait faite à Lille, il est allé faire une visite de courtoisie au cardinal Liénard, qui est donc évêque de Lille, qui l'a reçu et qui lui a dit, écoutez, monsieur le maire, ce que vous faites est très bien, mais je vous demande une chose, de cesser de tenir des propos contre la contraception. Alors évidemment, Pierre le maire savait quoi penser, il n'a pas changé son discours, mais c'est pour dire que cette position de hautes autorités dans l'Église, alors évidemment le cardinal Liénard est une autorité particulièrement perverse, puisque on sait par le rôle qu'il a joué au Concile que c'était certainement un évêque très engagé là dans la dérive de l'Église, mais c'est pour dire que cette position n'est pas récente.
Oh, elle n'est pas récente.
Elle existait déjà avant le Concile.
Et alors, Très bien. Et alors, je voudrais donc ajouter une chose. C'est je caractérise le religieusement correct de deux façons. Premièrement, le silence sur l'avortement. Et deuxièmement, un autre silence, peut-être encore pire que le premier, c'est le silence sur la transcendance. Et alors là, on le mesure, je dirais, avec facilité. Là encore, je trouve que tout ça, je dirais, est très clair, finalement. Parce que c'est... se taire sur les plus petits, sur ce massacre, je veux dire, qui était horrible, ça se voit, ça se parle, puis tout ça. Et ce silence sur la transcendance, ça se voit aussi, ça se mesure avec beaucoup de facilité, et bien précisément avec cette position qu'ont les évêques, récemment d'ailleurs, récemment sur la laïcité. Et alors, ils en sont, c'est assez incroyable, ils sont devenus les tenants de la loi de 1905. Et alors, ils parlent de convivialité, ils parlent de savoir-vivre, mon Dieu, dans la bouche de Monseigneur Lustiger, ils parlent de convivialité, mais alors, je ne comprends pas. Et comment dire, qu'il y ait évidemment une dimension horizontale à la laïcité, je comprends très bien, qu'on veuille bien s'entendre avec nos concitoyens, avec les politiques, avec tous, avec les francs-maçons, avec les bouddhistes, tout ça. Mais je comprends très bien, l'homme enfin, est fait pour comprendre son voisin, pour dialoguer, tout ça se comprend. Mais je veux dire, il y a un devoir de vérité.
Mais c'est là où cette laïcité... On est dans le mensonge démoniaque, là, parce que la laïcité, ça n'est pas l'intervention de l'État, c'est évidemment pas l'intervention de l'État dans les affaires de la religion.
Mais bien entendu.
Donc, l'histoire du voile, par exemple, l'État n'a rien à y foutre dans cette histoire, ça ne le regarde pas. L'État doit, la République laïque doit dire, moi je suis laïque, c'est-à-dire je suis neutre sur le plan religieux. Si les gens ont envie d'afficher leur religion, c'est leur problème, c'est eux que ça regarde. Si les femmes musulmanes ont envie de se bâcher, c'est leur problème. Et si les hommes catholiques ou les femmes catholiques ont envie de porter des croix de 14 kilos autour du cou, c'est leur problème. La République n'a pas à s'occuper de ça. Autrement, il faut qu'elle s'occupe des pantalons taille basse, des soutiens-gorge trop serrés et des plumes dans les fesses.
Enfin, Serge, à l'école, pas dans la rue.
Mais à l'école, c'est pareil. L'école, c'est un lieu public. Chacun fait ce qu'il veut dans la mesure où il ne porte pas atteinte à qui que ce soit. Moi, je me fous qu'il y ait une fille bâchée dans mon école. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse ? Ça me... Rien du tout. Je n'entends pas absolument le coquillage.
Monsieur Beckett, je crois quand même... On peut rendre un service à l'islam, c'est que la femme est en condition inférieure. Et dans la mesure où on l'enferme un peu derrière ses voiles...
C'est un moyen de protection. Tout le monde... Personne n'ose dire cette vérité. Pourquoi les musulmanes sont-elles obligées de se bâcher ? Parce que elles vivent dans des pays dont les hommes sont des fauves. Oui. Et quand elles montrent leur viande, ils ont envie de se jeter sur elles. Quand on vit dans un pays civilisé comme la France, ça n'arrive pas. Pourquoi les femmes musulmanes qui vivent en France sont-elles obligées de se bâcher, de se cacher ? C'est parce que les hommes musulmans sont dangereux quand ils voient une femme nue, parce qu'ils ne se contrôlent pas. C'est pas moi qui le dis.
Oui,
Perron seul disait tout à l'heure à propos des musulmans, ce sont des gens qui n'ont pas de méthode. C'est ça, hein ? Donc, ils ont des... Pourquoi ? Parce qu'ils ont une mentalité, puis ils ont le sang chaud, etc. Ils ont une habitude de considérer la femme comme un être inférieur, comme un objet dont on se sert et qu'on jette quand on n'a plus besoin, puisqu'on peut répudier sa femme en 30 secondes. Donc évidemment, elles ont intérêt à se bâcher, parce qu'autrement, elles passeraient des mauvais quarts d'heure. La plupart des filles des banlieues qui se bâchent, c'est à cause de ça qu'elles le font. Elles le disent elles-mêmes. Elles disent on est obligé de le faire, on est obligé de se cacher, autrement on est attaqué. Bon, alors il faut arrêter de raconter des films et de dire que c'est de la laïcité. Au nom de la laïcité, on met ces femmes en danger.
C'est vrai. Mais vous savez, le fait de se voiler aussi peut donner d'autres idées. Enfin, je ne sais pas, moi, j'en sais rien.
Ah, vous cherchez les pervers, toi.
Oui, les pervers, voilà. Enfin, j'en sais rien. Bon.
Je
reviens à la transcendance, justement. La vérité n'est plus. Comment dire les évêques, enfin, le clergé, je ne sais pas, et les catholiques avec eux, finalement, on arrive à accepter ce que disait Clémenceau, à savoir que rendez à César ce qui est à César et tout est à César. Donc César décide de tuer les petits. Eh bien, écoutez, on ne va pas faire de peine à César. Je crois que le président, Monseigneur de la conférence épiscopale disait que la religion ne doit pas être en contradiction avec les grands principes de la République.
Or,
les grands principes de la République, je crois, c'est cette fameuse loi de 1905, et maintenant c'est le droit à l'IVG. Mais alors là, je dirais, ce n'est plus. Alors là, il y a un divorce total, je dirais, entre ce que dit l'Évangile, ce que disent nos évêques, et puis ce qui se passe en réalité. La République est démoniaque. Elle tue nos enfants en rang serré. Et elle en fait un droit en plus. Et les évêques, ils voient du feu. Et ils disent au contraire, on va vivre convivialement, tout ça. Je dirais, c'est de la folie. Et je trouve que, alors là, je suis votre avis. Moi, je trouve que le péché est plus grand du côté de nos évêques que du côté des francs-maçons. Je vous dis comme je pense.
C'est beaucoup plus dangereux d'avoir un traître dans ses rangs qu'un ennemi en face de soi.
Je crois aussi. Et c'est la raison pour laquelle, vous savez, nous prions. Nous prions pour nous, parce que vous me direz, monsieur, tout ça c'est bien joli, vous êtes au micro, vous en profitez, etc., je crois quoi, dans la rue. Eh bien, je vous assure que nous prions aussi pour nous, parce que ce n'est pas toujours facile, il faut tâcher de voir clair, tâcher que Dieu aussi nous inspire, que nous soyons persévérants, que tâchons de voir clair. Enfin, il faut toujours, et bien sûr, être modeste, et, naturellement. Mais nous prions pour tous, nous prions pour les gauchistes, nous n'acceptons personne. Et au fur et à mesure, je vais vous dire même une chose, nous prions surtout pour nos évêques. Voilà. Alors, qu'ils sachent en tout cas qu'on prie pour eux, on les trouve, je dirais, effrayants, mais nous prions pour eux. D'autant plus effrayants que nous prions pour eux. Alors, je voudrais terminer, parce que je ne voudrais pas monopoliser le micro, bien entendu, par nos propres manifestations. Alors, vous dire des choses curieuses, enfin très rapidement, c'est que l'opposition a l'air de se réveiller, je dirais, de façon assez nette, puisqu'à Nantes, il n'y a pas très longtemps, c'était le 15 janvier, ils étaient assez nombreux contre nous, une bonne centaine je pense, et la police pour nous protéger nous a enfermés dans une petite chapelle qui était juste là, on était devant la chapelle, la chose se passe assez habituellement, les gauchistes prennent notre lieu de rendez-vous, la police ne les chasse pas, et nous il nous reste évidemment le peu qui nous reste je dirais, et puis là c'était facile de nous protéger, on nous a fermé la porte derrière nous, on entendait les pommes, c'était pas des cailloux hein, c'était des poches de papa qui tapaient contre la porte de la chapelle, on était une cinquantaine dans la chapelle, on priait, très bien, ça c'était parfait, mais à l'extérieur il y a eu aussi des retardataires, donc ils étaient une vingtaine de chez nous, qui eux ont reçu plutôt ce que nous aurions dû nous recevoir, mais il y a eu la télévision, ça ne passe pas inaperçu.
C'est une bonne préfiguration de notre société, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'en ce moment on nous répète à longueur de journée qu'il y a une surpopulation carcérale. Il y a de plus en plus de gens malhonnêtes, il y a de plus en plus de voleurs, de plus en plus d'agresseurs, il y a trop de gens dans les prisons. Finalement, on va arriver à un moment où il faudra mettre les honnêtes gens dans les prisons pour les protéger de la crapule qui se sont dehors, puisqu'il y aura beaucoup plus de crapules que d'honnêtes gens. Donc c'est un peu ce qui vous est arrivé, ils vous enferment pour vous protéger.
Vous savez, quand j'étais en prison, enfin ça vous le savez peut-être, mais j'ai trouvé plus de moralité en prison qu'à l'extérieur, c'est-à-dire que ceux que je voyais avec lesquels je parlais, ils étaient tous contre l'avortement. Et alors là, je me suis dit, mais vraiment, alors ils sont plus à l'extérieur, comment dire, ils sont pour la mort des enfants, à l'intérieur, non. Et puis les pédophiles, attention, hein, si on touche aux enfants, là, son quart d'heure est réglé. Hein. Enfin, je dis ça comme ça. Et puis alors, je termine avec nos manifestations. À chaque fois, maintenant que nous sommes devant le planning, ça ne plaît pas au planning, ça nous le savons par la...
C'est pas fait pour ça non plus.
Non, c'est pas fait. Enfin, encore une fois, nous prions. Nous prions pour les dames du planning, pour tous. Hein. Qui va-t-on accepter? Je dirais, nous aimons nos ennemis. Enfin, autant que nous pouvons. Bon, et donc nous prions pour eux, et la prochaine fois que nous prions devant le planning, ce sera pas dans 48 heures, et ce sera donc au coin de vendredi 13 février, au coin de la rue Vivienne et de la rue du 4 septembre, métro Bourse à 19h. Alors ne manquez pas ça, venez nombreux, considérez que nous sommes dans un précipice, que ça va continuer, qu'on va tuer nos vieillards maintenant, ça va faire exactement comme la loi Veil, c'est-à-dire on va dépénaliser, puis après ça va passer dans la loi, après ça va être un droit à l'euthanasie, comme ça fait exactement pour la loi Veil. Nous sommes dans un précipice, tout ça a commencé avec la contraception, ça a assez duré, 30 ans, je dirais 30 ans de malheur, 30 ans de franc-maçon, 30 ans de socialiste, 30 ans de droite qui ne pense qu'à trahir, ça suffit. Et alors, attention à l'extrême droite aussi, qui peut-être louche aussi, peut-être de ce côté-là, après tout, prenons la Veil, on pourrait peut-être ratisser large et tout ça. Ça, je mets en garde vraiment, vraiment, parce que si jamais le Front National perdait ses principes, je dirais, il perdrait sa clientèle, il perdrait son âme. Et en perdant son âme, il perd tout. À mon avis, s'il a quelque chose, ce sont ses vertèbres. S'il les perd, il est perdu. Je pense, hein, je le dis.
Vous avez entrepris là une grande opération de
nettoyage,
de relations publiques.
Enfin, que Dieu nous garde, bien entendu. Et voilà. Et alors, une dernière chose à Dijon. J'ai vu hier celui qui est le responsable de Dijon. Lui, il est formidable. C'est un ancien ingénieur de l'armement, un X, et il est d'une fidélité. Tous les deuxièmes samedis du mois, il est devant l'hôpital du Bocage à Dijon. Et là, ils étaient 14, dont une. Il y avait des gens un peu vieux, m'a-t-il dit, dont une dame de 80 ans. Et alors, ils étaient une trentaine de gauchistes qui étaient là, ils se sont saisis des banderoles, ils ont mis le feu à tout ça. La police n'a pas trop bougé, disons, elle a laissé brûler tout ça. Mais il n'y a pas eu de coups, ça, il faut dire les choses comme elles sont, il n'y a pas eu de coups, il y a eu simplement des cris, des blasphèmes, enfin. Mais honneur à ces 14 militants qui, imperturbables, ont continué leur chapelet. Et alors, heureux gauchistes, finalement, parce que maintenant, l'alerte est donnée, les jeunes vont arriver de notre côté, enfin, et rendez-vous est pris samedi prochain à 14h30 au Bocage, à l'hôpital du Bocage à Dijon. Donc, c'est vous dire que finalement, ça ne va pas si mal.
Merci docteur, je vous signale qu'il y a quelqu'un qui va prier pour vous, qui nous dit je trouve que l'avortement c'est très bien parce que ça limite, il faut en finir avec cette planète surpeuplée, et je vais prier pour ce fanatique, voilà.
Donc, avec quel prix, d'accord.
Je ne sais pas qui il va prier, mais voilà.
Le Dieu des petits.
Un auditeur nous signale que depuis le début de la semaine, toutes les émissions de Radio Libertaire appellent à une contre-manifestation le vendredi 13, 19h, métro Bourse, contre le docteur.
Ah, c'est pas juste, et le docteur Dor, il peut appeler qu'une fois sa manifestation.
Alors, vous avez entendu. Alors, si Radio Libertaire appelle contre nous, je vous en prie, venez. Ne nous laissez pas tout seuls, on a besoin d'un service de sécurité. La police, alors là, je rends hommage à la police, franchement. La police fait très bien son travail. Ça, je l'admire depuis plusieurs fois, ils le font toujours avec un calme et une courtoisie remarquable. Honneur à la police, véritablement.
Honneur et police.
Bon, d'un autre côté, Radio, ce qui compense, c'est que Radio Libertaire est moins écoutée que Courtoisie.
Et un auditeur aussi vous demande combien vous avez d'enfants.
Oh, j'en ai quatre. J'en ai quatre, mais j'aurais aimé 10 fois plus. En fait, 10 fois plus, c'est pas possible.
Si j'avais 10 fois plus, j'aurais fallu commencer tôt.
Oui, c'est ça, c'est vrai.
J'aurais peut-être avoir plusieurs femmes aussi.
Enfin. Ah oui, et puis alors, au dernier, excusez-moi. Alors, toujours, ça j'ai honte aussi. Mais maintenant, on a cessé de demander de l'argent aux manifestations parce que les gens sont suffisamment dévoués pour venir aux manifestations. Puis, quelquefois, quand on reçoit les tomates, je sais pas quoi, c'est peut-être pas le moment. Mais, puisque je suis au micro. Et puis, alors, c'est donc deux choses pour moi. Premièrement, remercier la générosité, je peux dire la générosité avec un grand G de ceux qui nous envoient, mais parfois, vous savez, avec une délicatesse, surtout, ils m'envoient par exemple 400 euros, surtout ne me répondez pas, vous voyez, je joue comme ça. Alors, bien entendu, on va répondre, mais je veux dire, on est confus, mais j'avoue que c'est tellement bienvenu, et donc, mais c'est vrai que nous avons des besoins.
Merci docteur. L'adresse à laquelle il faut satisfaire ses besoins,
c'est vous dire. Satisfaire ses besoins, c'est vrai. Alors, 11, c'est vrai, mon Dieu, 11 rue Tranchée,
SOS tout petit,
on se retranchait. Alors il y a une manifestation aussi à Maison Lafitte.
11 rue Tranchée, finissons 8e, d'abord. 8e. Paris 8e,
oui.
Et alors, Maison Lafitte ?
Une maison à Maison Lafitte, donc à Dijon. Ils marchent ensemble, si vous voulez. À Dijon, ce sera donc samedi prochain, à 14h30. Mais à Maison Lafitte, ce sera
des cours,
à 11h moins le quart. C'est ça, à côté de la gare, à côté du commissariat de police. Là, je crois qu'il n'y risque rien. Nous avons une très bonne équipe là-bas.
Merci, Herr Docteur. J'aime beaucoup l'appeler Herr Docteur. Je vais vous demander de laisser votre place aux jeunes gens qui vont prendre la parole maintenant. Monsieur Pruval, si vous voulez vous lever aussi pour quelques minutes, parce que nous sommes pauvres, nous aussi, nous n'avons pas beaucoup de sièges et pas beaucoup de place. Voilà. Donc je reçois maintenant rapidement Odile Bonivard, qui a organisé quelque chose qu'elle va nous expliquer.
Oui, merci beaucoup, monsieur de Pekech. Bien, alors on va changer de sujet, c'est un petit peu l'heure du repas, ça tombe bien. Nous sommes venus vous parler de soupe. Mais pas n'importe quelle soupe. Nous sommes venus parler de la soupe populaire identitaire qui est servie maintenant depuis 6 semaines dans un quartier populaire de Paris par des membres du bloc identitaire et des jeunesses identitaires dont vous avez deux responsables qui sont ici. Voilà. Ce que je voulais vous expliquer.
Alors, mademoiselle, vous vous appelez Céline. Et alors, quelle est votre fonction ? C'est vous qui préparez la soupe ? Il faut bien quelqu'un qui la prépare, cette soupe.
Ok, macho.
On est quelques-uns à préparer la soupe la veille, donc le jeudi soir. Et donc, nous nous retrouvons le vendredi soir à une bonne trentaine de jeunes et de moins jeunes. Et nous servons donc une soupe, on offre aux sans-abri donc une soupe bien chaude, du café. Et nous profitons également de certains événements, comme par exemple la semaine dernière, on a profité de la Chandeleur pour leur offrir des crêpes et un petit peu de cidre.
Ah, okay. Voilà. Pas de vin alors ?
Si, bien entendu,
on en a aussi. C'est bien, c'est bien.
Si, on n'oublie jamais le vin de pays.
C'est bien.
Et toujours très apprécié.
Christophe, quelle est votre fonction? Vous portez les gamelles, vous imaginez? Costaud comme vous êtes.
Bon, ça, approchez-vous bien. Dans les jeunes, nous assurons aussi la sécurité parce que, comme vous avez dit, nous sommes dans un quartier populaire de Paris. Et donc il n'y a pas un soir sans que nous ayons des jeunes halogènes qui viennent.
Ça éclaire un peu le.
Voilà,
le
ça éclaire un peu. Ils sont un peu attirés par cet attroupement de un peu de visages pâles dans leur quartier. Donc les jeunes, nous on se retrouve pour non seulement pour assurer la sécurité, mais aussi parce que c'est intéressant dans un parcours militant de se confronter au peuple, au vrai. De sortir des traditionnelles formes de militantisme pour pouvoir justement aller au contact du peuple, faire du social, pas seulement en parler.
Mais qui a eu cette idée? Parce que c'est une vieille idée royaliste de servir des soupes chaudes aux miséreux, aux nécessiteux, aux sans-logis.
Précisons, Serge, dans le numéro précédent, 313 du Libre Journal, donc nous signalions une action, une initiative du même type des jeunes d'Action Française à la gare Montparnasse.
Oui.
Et donc, je me permets une fois de plus de demander s'il y a une compétition, une course à l'échalote entre les jeunes identitaires et les jeunes d'Action Française, dont j'ajoute que je comprends mieux leur initiative, puisqu'ils sont fondamentalement chrétiens et que c'est de la charité. Mais vous, jeunes identitaires, qu'est-ce qui peut vous conduire à vous intéresser à ce que on m'a appris autrefois appeler des lumpen, c'est-à-dire des gens complètement désocialisés? C'est pas eux qui vont sauver la France.
Alors, je vais répondre là-dessus, si vous voulez bien. Bon, alors, donc, c'est une idée un petit peu commune entre donc les jeunes et nous-mêmes qui sommes moins jeunes. Simplement, il suffit de se promener dans les quartiers dits populaires, il suffit de se balader un peu dans les rues. Il suffit d'aller aux abords des gares, etc., pour se rendre compte que dans la rue, ce sont nos frères de peuple qui sont dans la rue. On voit jamais donc d'extra-européens dans la rue.
Très peu en tout cas. Mais pour une raison que vous connaissez.
Non, monsieur de Becket,
il y a une tradition de solidarité chez les Africains qui n'existe plus chez nous du tout.
Exact.
Et donc chez les Africains, dans les foyers africains, il y a toujours quelque chose, un endroit pour dormir et quelque chose à manger pour les plus misérables. Pas de clochard africain.
La structure familiale n'est pas
sauf dans votre quartier où ils viennent tourner dans votre coin.
Alors c'est vrai. Bon, donc l'idée est venue de là en fait. Tout simplement, l'idée est venue donc de voir ces gens qui sont comme nous, qui sont vraiment nos frères de sang. Il n'y a pas de mystère de les voir dans la rue. Donc, je ne pense pas que ce soit une idée particulièrement et uniquement chrétienne. Oui, c'est vrai en partie, mais pas que ça. La preuve, puisque nous ça nous a touché et on s'est dit à la place de parler du social dans les salons, etc., on va faire du social dans la rue, dans le terrain. On va mettre les mains dans la pâte et on va faire chauffer les légumes et on va les leur servir.
Mais Marquis, au lieu d'en parler dans les salons.
Lui,
il va dans les salons, il en parle.
Alors c'est bien d'en parler aussi dans les salons, mais je pense que ça ne suffit pas. Alors ce qu'il faut ajouter, une chose importante, monsieur de Becket, c'est que cette soupe est dite identitaire de par sa composition, puisque chaque vendredi soir, puisqu'on tient quand même, là on va arriver en sixième semaine, donc chaque vendredi soir, on met donc bien sûr les légumes traditionnels, mais à chaque fois, il y a du lard, il y a des pattes de cochon, il y a des oreilles de cochon, et on en profite d'ailleurs pour remettre le porc à l'honneur, puisque malheureusement il a disparu de nos cantines et de nos maisons de retraite, etc. Donc nous, on remet déjà le porc à l'honneur. Voilà. Ça nous permet donc d'avoir une clientèle identitaire. Voilà, tout simplement. Ceci dit, je rassure les âmes sensibles qui pourraient écouter Radio Courtoisie, on ne refuse jamais un café ou un morceau de pain ou quoi que ce soit à quelqu'un qui n'aimerait pas le cochon. Voilà.
Un morceau de pain largement couvert de Saint-Doux, j'espère.
Non, absolument pas. Mais ceci dit, ils sont extrêmement minoritaires et nous, sur 6 semaines, on a vu même pas 1 sur 10 ou 1 sur 12, pas plus.
Écoutez, voilà. C'est celui qui paye la musique qui choisit les violons. Alors, celui qui paye les violons qui choisit la musique. Alors, si vous avez envie de faire de la soupe de cochon, c'est vous qui servez.
Voilà, tout à fait.
D'abord, des têtes de cochon qui servent la soupe de cochon, c'est...
c'est exactement ce que je dis.
Comment on peut vous aider, si on veut?
Alors, bien sûr, on va essayer de tenir tout l'hiver, parce que nos amis d'Action Française, je crois, font ça une semaine sur deux. Mais nous, on fait ça toutes les semaines. On n'est pas si nombreux que ça. Mais nous, on tient le coup, on fait ça toutes les semaines, tous les vendredis soirs. Alors, la façon de nous aider, il y a bien sûr deux façons. Il y a d'abord de venir nous donner un coup de main sur le terrain, parce que bon bah évidemment, comme vous dites, faut porter les gamelles, ça se fait pas tout seul. Et puis il y a aussi une façon toute simple, bien sûr, c'est de nous envoyer un peu de soupe, parce que bon, on arrive à boucler le budget soupe chaque semaine avec 25 euros. Alors je vous cache pas que on fait nos achats plutôt dans des enseignes dites discount. Que Place de la Madeleine, c'est clair. Mais bon, il nous faut quand même à peu près 25 euros toutes les semaines. Voilà, donc ça, c'est une chose qui est tout à fait concrète. Alors, j'ai bien sûr les coordonnées, donc je peux peut-être les donner.
Ben oui, c'est ça, bon. C'est ce qu'il faut faire.
Alors, donc, je vais vous les donner. Alors, il y a une adresse postale. Bon, alors, Bloc Identitaire Ligue Francilienne, Centre PO 170, 23 rue Lecourbe, 75-015 Paris.
Vous répétez, s'il
vous plaît. Répéter au moins 8
doucement,
fois.
Lentement.
Alors, Bloc Identitaire Ligue Francilienne. Je vais vous laisser un petit papier après.
Non, mais si moi je note, eux ils ont le temps de
D'accord.
noter.
Centre PO 170, 23 rue Lecourbe.
Oui.
75-015 Paris.
Et les chèques
oui,
sont à l'ordre.
Les chèques à l'ordre de la LIF, L-I-F, Ligue Identitaire Francilienne. Donc c'est très simple, LIF. Et pour ceux qui veulent venir nous donner un coup de main et goûter avec nous une petite louchée, parce que c'est un grand moment de partage en même temps, ça il faut bien le dire aussi.
Vous parlez quand même comme un curé. Hein.
Ah bah tout à
la
fait. Tout
la,
à fait.
La soupe est bonne.
Il y a une adresse email. Alors solidarité, tout simplement, solidarité.
Elle n'aime pas ça, les adresses e-mail, Victoria.
C'est tout facile. @ bloc tiré identitaire au singulier .com. Voilà.
.com.
Et là, on dit tout.
Mais s'ils veulent venir vous aider, on va manger la soupe et distribuer la soupe, ils vont où?
Il faut d'abord qu'ils écrivent,
qu'ils
passent par le mail et qu'ils disent, voilà, je voudrais...
Ils peuvent aller se pointer directement sur les...
Je préfère pas donner comme ça la...
Qu'est-ce que vos parents pensent de ça, Christophe, et vous, Céline?
Micro.
Mes parents, sont très contents.
Micro,
d'accord, oui. Mes parents, oui, sont contents qu'on puisse comme ça s'occuper, faire une action, c'est du dévouement. Et
puis pendant ce temps-là, vous n'allez pas au café, en plus.
Voilà. Et puis on économise le prix d'un café.
Merci beaucoup. Oui, vous voulez dire quelque chose?
Non, je voulais rebondir sur ce que vous nous disiez sur l'action française. Je ne sais pas depuis combien de temps ils organisent cette action. S'il y a ce qu'on peut dire une petite concurrence, tant mieux. Que ça dure, si ça peut durer tout l'hiver et même d'autres, que ça soit reconduit. Que plusieurs guerres soient couvertes, tant mieux. Pour ce qui est du lumpen prolétariat, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça contribue? Déjà, je pense qu'on pourrait dire que dans les gens qu'on sert, il y a plusieurs types de gens. Il y a ceux qui sont l'image qu'on a du clodo habituel, qui boit, qui est dans un état de délabrement assez avancé. Et d'un autre côté, on a des gens qu'on sent qu'on peut aider, essayer de sortir, de récupérer, et qui travaillent et qui rencontrent beaucoup de problèmes. Et j'aimerais aussi dire que même parmi les gens les plus... Les plus abîmés par la vie, voilà. Beaucoup sont conscients de leur identité et partagent avec nous.
C'est probablement parce que c'est tout ce qui leur reste, en fait.
D'ailleurs, voilà. Marx a dit lui-même que le lumpenprolétariat n'était pas révolutionnaire.
Et c'est pour ça que je posais la question. Mais aujourd'hui, on est dans une situation telle qu'il y a une proportion importante, significative, de salariés qui sont sans domicile fixe. Voilà
exact.
Où nous en sommes.
C'est vrai.
Alors peut-être que oui, vous pouvez les récupérer, ceux-là.
Merci en tout cas de ce que vous faites, surtout, c'est très bien. Moi j'approuve et j'applaudis dès demain. C'est longtemps que j'essaye d'applaudir d'une seule.
Mais monsieur de Becket, peut-être que pour la dernière, on vous préviendra et j'espère que vous viendrez partager la soupe au lard avec
moi,
nous.
Vous savez, je ne peux pas manger de lard.
Vous aurez droit à un morceau de pain et un café.
Merci, à bientôt.
Merci à vous, merci.
Voilà. Alors, on change de sujet ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Dominique Tassot, de cette soupe au lard identitaire?
Mais ça me paraît une très bonne chose.
Une bonne chose.
Justement, parce que l'identité est évidemment le point de départ de tout. Et ça m'amène.
En plus, ils sont beaux, ces gosses. On peut le dire, ils sont partis. Ils sont lumineux. Hein. On a quand même de beaux enfants en France.
Puis c'est une action simple et concrète et qui leur fait, comme il disait, vont prendre contact avec d'autres personnes c'est la réalité du tissu social. Parce que qui est détruit, fait nous, qui n'est pas détruit dans la famille africaine, qui n'est pas détruit dans la famille maghrébine, et qui est fait nous.
La famille maghrébine, ça commence à souffrir terriblement.
Africaine aussi, on voit des cloches noires de noir dans le métro, je vous assure, hein, tous les jours, hein, tous les 10 mètres.
Bon, alors, vous faites pas de soupe identitaire, vous faites un journal qui est une association et un journal qui est une forme d'association et de journal identitaire.
C'est une identité différente, à la pensée correcte ou scientifiquement correcte, puisqu'on parle du politiquement et du religieusement correct, mais il y a un scientifiquement correct. Et je voulais aujourd'hui, à propos de scientifiquement correct, vous parler un petit peu de quelqu'un que vous connaissez, puisque Libre Journal a fait écho de ses déboires, qui est Loïc Leribaud.
Alors, je me suis fait enguirlander par un auditeur tout à l'heure, parce que qui m'a reproché d'avoir dit des bêtises quand j'ai parlé de l'affaire Leribaud, parce que j'en ai parlé trop vite, j'ai dû dire effectivement 3 bêtises. J'ai dit que c'était la présidente du tribunal qui avait parlé alors que c'était la procureure. Ça mérite ça au moins un coup de baguette sur les doigts, comme dirait l'imam Goffman d'ailleurs.
Non, moi je tape pas sur les doigts, je tape sur les fesses.
Oui, ça va. Pas de détails anatomiques, s'il vous plaît. Alors, mon cher Dominique Tassot, en quoi Leribaud vous concerne-t-il directement?
Me concerne directement parce que c'est quelqu'un de très intéressant, puisque vous voyez je lis dans le bulletin non conformiste, arrestation d'un grand savant français en Suisse. Donc c'est un grand savant, effectivement c'est un grand savant, c'est un observateur de première main qui a fait qui a créé un petit peu la police scientifique en France. Donc. Or, ce grand savant est absolument nul en maths. Ça, il le dit dans son autobiographie, c'est très intéressant, mais je veux dire, il arrive à faire les multiplications, mais c'est vraiment là, au-dessus, il cale.
Ah bon. Donc c'est quelqu'un moi je suis meilleur que lui, hein, parce que je sais faire
qui a eu les plus grandes difficultés en mathématiques dès l'enseignement secondaire, qui n'a jamais pu faire d'études de première année de fac scientifique, précisément parce qu'il était absolument barré par les mathématiques. Ouais. Hein, alors, il a réussi, finalement, il a fait une maîtrise de lettres, puis un DESS de sédimentologie, parce que en sédimentologie, on arrivait à se débrouiller sans mathématiques, et par le biais d'un tour de passe-passe, il a réussi à faire une thèse de science. Bon. Mais c'est, alors là, on tombe sur un point extrêmement important, et qui est le rôle absolument destructeur, anti-scientifique, que jouent les mathématiques dans la société actuelle, et en particulier dans la médecine. Et ce qui m'amène à mon sujet principal, aujourd'hui, on a une sélection des médecins par le niveau en mathématiques. C'est absolument aberrant, c'est exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire. Parce que qu'est-ce qu'un bon médecin? Un bon médecin, c'est quelqu'un qui a l'intuition du diagnostic. Or, l'intuition, les intuitifs, sont plutôt des littéraires que des matheux, en général. Il y a
encore que les grandes découvertes mathématiques, c'est parfois sont parfois servies par l'intuition.
Il y a une intuition mathématique. Je dirais même d'ailleurs, dans les vrais mathématiciens, là, il y a deux catégories. Il y a les analystes et les intuitifs. Bon, mais là, on joue sur 0,05% de la population. Mais ce qui est aberrant, c'est d'utiliser ce critère de mathématiques de sélection pour une profession qui est une profession vitale pour le pays. La qualité des médecins est quelque chose d'extrêmement important. Et je regrette que François Plantin ne soit pas là, parce que je sais qu'il est exactement d'accord avec moi sur ce sujet. Or, on a aujourd'hui un phénomène, mais qui est dramatique. Quelle est l'utilité des mathématiques pour un médecin dans la pratique? Elle est absolument nulle. Parce que il y a quelques années, ils étaient amenés à faire des règles de 3 pour calculer la posologie dans le cas des nourrissons, etc. Mais maintenant, c'est même plus nécessaire, puisque les notices prévoient tous les cas de figure. Donc, il se trouve que professionnellement, j'ai l'occasion de contacter beaucoup de médecins. Je peux vous garantir que je n'ai jamais vu un médecin s'engager au moindre calcul en deçà de la règle de 3.
Alors, théoriquement, j'ai vu François Planté qui passe son temps le nez dans des ouvrages de mathématiques dont je comprends même pas le titre. Alors,
qu'il y ait 1% ou 2% de médecins qui soient des scientifiques au sens habituel et plein du terme, ça je suis tout à fait d'accord. Au contraire, ça me paraît souhaitable. Mais ce qui est absolument débile et contre-productif, c'est de sélectionner la totalité du médecin sur un critère qui est anti-pertinent enfin, le contraire de ce qu'il faudrait faire pour l'exercice principal de leur métier, où il faudrait justement des gens.
C'est peut-être pour la comptabilité de fin de trimestre aussi qu'ils sont obligés d'avoir des bases mathématiques. Avec la sécurité sociale maintenant, quand on voit qu'on leur demande de respecter des quotas, de pas avoir trop de malades, de pas ordonner trop d'examens et tout, sous peine de se voir privé de la comment appelle-t-on ça, de la
convention.
La convention, ils sont obligés quand même de savoir faire 2-3 exercices.
En Suisse, ils doivent facturer à la minute maintenant.
Oui, vous avez vu ça?
Ah bon, non, c'est...
Ah non, mais c'est
vrai. Compter là encore.
Donc il faut quand même avoir
Ubu des capacités. Même en Suisse, ce soir, c'est quand même intéressant.
Des trucs mathématiques difficiles, comme il y a 60 secondes ou 60 minutes dans une heure, des choses comme ça. Non mais blague à part, c'est renversant, c'est vrai.
Là, on a vraiment un dysfonctionnement, comme on dit aujourd'hui, qui est prodigieux, parce qu'on se rend compte que les gens qui seraient de bons médecins ne peuvent pas faire médecine, et font médecine parce qu'on gagne beaucoup d'argent en étant médecin. Des gens qui ne seront pas forcément
pas
bons médecins.
Vous croyez qu'on gagne beaucoup d'argent en étant médecin?
Ben, c'est ce qu'ils croient.
Si on fait mal son métier, sans doute.
C'est ce qu'ils croient, et c'est pour ça qu'ils passent des nuits à apprendre par cœur beaucoup de choses qui ne sont pas forcément d'une grande utilité. Et ça m'amène, évidemment, à ce sujet, c'est que cette médecine pour laquelle on sélectionne si mal, en un sens, donc, est une médecine malmenée, est une médecine qui ne remplit pas sa fonction, et c'est pourquoi le CEP a jugé utile de faire une journée, donc le samedi 28 février, sur les questions médicales.
Le CEP, c'est quoi?
Le CEP, donc Centre d'études et de prospectives pour la science, donc est une association qui justement s'intéresse aux questions scientifiques, mais d'un point de vue critique. Et d'un point de vue critique, chrétien en particulier, en raison d'un éclairage supérieur qui est celui de la révélation. Parce qu'évidemment, on ne peut être critique qu'en prenant du recul par rapport aux choses. Et en ce qui concerne le CEP, évidemment, ce qui permet ce recul, c'est une vision chrétienne du monde. Donc, de la même façon que on peut se demander si la médecine est un art ou une science, et je pense que la réponse est claire, la médecine est un art, c'est l'art de guérir, et ça a toujours été considéré comme ça depuis très longtemps. La formule, c'est l'art de guérir, parce que justement, c'est ce qui se passe quand on a affaire à un bon médecin. C'est que alors aujourd'hui, à cause du Conseil de l'Ordre, évidemment, nul ne peut prétendre guérir quoi que ce soit, et on n'a plus le droit que de soigner.
Ça, c'est la contrepartie de la tentative que certains malades ont faite d'obtenir une obligation de résultat. Alors, il est évident que les médecins se sentent menacés quand on leur dit « Vous avez l'obligation de guérir », ils préfèrent répondre « Non, on n'a que l'obligation de soigner ». Ça se comprend, puisque si l'obligation de guérir n'est pas remplie, les méthodes américaines, ils se retrouvent avec des procès à 50 millions de dollars, et c'est moins intéressant le métier, forcément.
En parlant de méthodes américaines, vous le saviez, vous, Serge, que la médecine psychosomatique était dans la Bible, était décrite dans la Bible, dans les
Proverbes. Bien sûr, cher ami. Alors, si vous voulez qu'on en parle longuement,
moi, je suis épaté.
Je vous inviterai un jour avec le docteur Planté à parler de ça, et vous verrez que tout est dans la Bible, y compris la microbiologie,
C'est en exergue du document qu'on nous passe sur la journée régionale donc du CEP, le 28 février prochain. Ouvrez les guillemets, un cœur joyeux est un excellent remède, un esprit abattu dessèche les os. Proverbe 17-22.
Mais alors les os, c'est très important parce que la moelle osseuse joue un rôle essentiel dans le système immunitaire. Alors ça, évidemment, c'est une connaissance moderne, mais c'est justement un point de rencontre où on se rend compte que évidemment il y a un savoir réel dans la Bible qui est beaucoup plus important qu'on imagine, parce que il y a cette idée que la Bible ne sert qu'aux questions spirituelles, c'est-à-dire on y trouvera des idées intéressantes sur le sort de l'âme, sur la vie intérieure, etc., et que les questions scientifiques et historiques ne sont pas du ressort de la Bible. Alors ça, c'est vraiment le béaba que l'on enseigne aujourd'hui, y compris dans les séminaires, malheureusement. Or, il faut savoir que cette idée selon laquelle l'inhérence biblique, c'est-à-dire le fait que la Bible ne se trompe pas, soit réduite aux questions de foi et de mœurs.
L'inhérence.
Voilà.
Oui, pas INH.
Et attention, hein.
INHE.
Voilà.
Et je me permets de...
Non, mais c'est très important parce que c'est un mot extrêmement rare, puisque ce mot...
C'est votre vocabulaire personnel, je me permets de le traduire pour les auditeurs.
Non, ce n'est pas mon vocabulaire personnel, mais c'est un vocabulaire très restreint, parce que ce mot, évidemment, ne peut s'appliquer qu'à ce livre-là. Parce que seul un ouvrage inspiré par Dieu peut prétendre à l'inerrance.
À ne pas errer.
Voilà. Or, il est de tradition, en particulier dans l'Église catholique, que l'inerrance biblique n'est pas restreinte aux questions de foi et de mœurs, contrairement à ce que beaucoup pensent, mais est absolue. Elle s'étend en particulier aux questions scientifiques et historiques. Et l'opinion contraire, l'opinion sur laquelle l'inerrance biblique est restreinte aux questions de foi et de mœurs, a été condamnée par Léon XIII, par Pie X, par Benoît XV et par Pie XII. Mais ça, c'est extrêmement peu connu. Mais ça m'est... Enfin, c'est un autre sujet. Mais dans le cas particulier, donc, il n'est pas du tout surprenant que j'ai pu, alors vraiment sans grande recherche, extraire un verset de la Bible pour mettre en tête d'une journée sur la médecine.
Bon, les plus incrédules diront qu'il y a quand même un concentré d'expériences, de connaissances empiriques extraordinaires, et que ça n'a pas été...
Non, et puis surtout, je dirais...
écrit de façon fantaisiste, mais que c'est vraiment bon, la sagesse des nations, à tout le moins.
Voilà, et on est toujours dans l'erreur quand on sous-estime un texte inspiré. Et la Bible n'est jamais hors sujet.
Un auditeur proteste, les étudiants en médecine ne sont sélectionnés que sur des matières médicales et pas sur l'enseignement mathématique.
Oui,
je suis professeur dans un CHU depuis 30 ans et je souffre en vous écoutant.
Oui, mais enfin, l'expérience montre que si on ne fait pas un baccalauréat, il est extrêmement difficile de faire des études de médecine aujourd'hui. Ce qui n'a pas toujours été le cas, d'ailleurs. Ce qui n'a peut-être d'ailleurs pas été le cas du temps où ce professeur était lui-même étudiant en médecine.
Si je puis me permettre, il me paraît y avoir une contradiction grave dans l'intervention de ce professeur de CHU, parce que les étudiants en médecine ne sont sélectionnés que sur des questions de nature, sur des matières médicales. Mais comment peut-on sélectionner un étudiant qui va apprendre quelque chose sur ses connaissances dans la matière qu'il va apprendre? Ça me paraît complètement aberrant, ce truc. Ça me paraît aberrant. C'est exactement comme si on disait à un gars, vous voulez être menuisier, fabriquez-moi une table et on va voir si vous êtes capable de devenir menuisier. Mm-hmm. Il faut commencer par apprendre le métier avant de pouvoir répondre. Enfin,
non, et puis quand même, le niveau en physique, en chimie, en biologie qui est demandé pour les études de médecine est un très bon niveau. Ça, c'est y a, effectivement, dans les années 5e année de médecine, là, effectivement, il n'y a pratiquement plus que des matières médicales, mais
Les étudiants en médecine sont sélectionnés sur des matières médicales. C'est-à-dire que pour commencer des études de médecine, il faudrait déjà être médecin, en quelque sorte.
Il fait allusion au contrôle continu. Il n'y a pas une sélection à l'entrée.
Mais un étudiant ayant fait L, un littéraire... je connais, alors, en Belgique, d'ailleurs, un très grand médecin qui a une réputation internationale, qui a des patients qui viennent le voir du monde entier. Et ce médecin a failli. Alors, il a aujourd'hui 45 ans. Et je parlais avec lui le mois dernier, justement on est tombé sur ce sujet, et il m'a dit que lui-même avait failli être en difficulté à un moment donné au cours de ses études parce qu'il n'était pas assez bon en maths. Et là, ça concernait le calcul intégral. Bon, on lui demandait du calcul intégral, pour lui, c'était difficile.
Il était intégralement nul.
Alors que c'est vraiment un très grand médecin. Donc là, au contraire, là, les exemples abondent. Mais enfin, ça nous écarte un petit peu de notre idée que justement cette médecine qui n'est pas fondamentalement une science. Et la difficulté, justement, pourquoi est-ce que les médecins prétendent exercer une science, c'est parce que quand on dit science, on dit méthode, on dit rigueur d'application, et d'une certaine façon, le médecin justement qui a appliqué la méthode qu'il devait appliquer, il ne peut pas être poursuivi, il ne peut pas être mis en difficulté, et il est en règle avec l'ordre des médecins. Et donc on a une approche de la médecine qui facilite cette espèce d'embrigadement des médecins par un ordre, ce qui est une chose tout à fait scandaleuse. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas... on a des fonctionnaires de l'administration centrale ou des médecins de l'ordre des médecins qui prétendent savoir mieux que le médecin traitant ce qui est bon pour son patient. Parce que c'est ça la situation à laquelle on en est. Alors si on admettait vraiment que la médecine était un art... l'art de guérir, à ce moment-là, il est évident que c'est celui qui est en présence du patient qui, en fonction de ce que son intuition lui suggère, est celui le plus compétent pour dire quel est le traitement qui convient.
Alors, cette journée régionale d'Île-de-France du Centre d'études et de prospectives sur la science, elle est quand même... Elle sera animée par des personnalités tout à fait exceptionnelles. Donc, ça commence à 9h30.
Par un exposé sur la bioélectronique, Vincent. Parce que justement, je viens de dire que la médecine n'était pas une science, mais la médecine s'exerce dans une réalité où la science a toute sa place. Et en particulier, donc la bioélectronique, Vincent, est vraiment une discipline à part entière. Évidemment, qui n'est pas enseigné aujourd'hui, pour le moment, à l'université, mais qui permet une approche quantitative du terrain pathologique. C'est-à-dire que l'on peut, et ça fait partie en particulier des disciplines permettant un diagnostic précoce du cancer, permettant de, en fonction d'une analyse de sanguine, parfaitement méthodique, puisqu'on mesure ce qu'on appelle la résistivité, le pH, le RH2, c'est-à-dire qui donne une idée de la concentration électronique d'une solution. Et à partir de cette analyse, on a une aide pour la qualification du terrain. Parce que le médecin n'a pas besoin lui-même d'être un biologiste savant. Par contre, c'est un artisan qui va utiliser le travail des scientifiques.
Oui, ça c'est évident. De même que le menuisier n'est pas obligé de fabriquer ses scies ou ses ciseaux. Il a des gens pour le faire et lui, il utilise des outils pour accomplir son
travail. Voilà, donc nous avons demandé la première conférence donc à quelqu'un qui peut justement donner un fondement scientifique qui ouvre des perspectives très intéressantes.
Alors ensuite, les manipulations génétiques sur l'homme, ça c'est un sujet aussi passionnant. Le professeur Rhetoric va présenter ça. Bah, à la lumière de la révélation, c'est quand même très très intéressant. De voir. Je suis intéressé par ce sujet, j'ai envie de savoir ce que va raconter.
Alors, Marie-Odile Lorterer, je ne sais pas ce qu'elle va raconter. Alors, c'est une proche, enfin, elle était proche collaboratrice du professeur Lejeune, donc c'est une généticienne, et donc on a donc pensé à elle pour nous dire où on en est actuellement dans la manipulation du génome humain, parce qu'il se fait beaucoup de choses dont on ne parle pas. Et je suis persuadé qu'il y a énormément d'expérimentations faites sur l'homme dans le plus grand secret, qui horrifierait les populations. Si
à ce propos, je fais une parenthèse. Il faut absolument lire un livre que Marie-Claude Monchot a écrit, hein, Patrick, qui s'appelle Les chimères du manoir perdu. Alors ça a l'air d'être un titre. C'est effectivement un roman pour les enfants, enfin pour les adolescents, jeunes adolescents. Et c'est un bouquin vraiment extraordinaire qui pose ce genre de questions. La question notamment de la protection de la vie, la question des manipulations génétiques, la question du comportement qu'on peut avoir et qu'on doit avoir vis-à-vis des enfants différents. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça pose ces questions-là sous la forme d'un conte fantastique, d'un conte comme un conte de fées. Mais c'est écrit d'une manière magnifique. J'en parle dans le dernier numéro du Libre Journal. Patrick a lu le bouquin aussi, c'est une merveille.
Hein. Oui, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Et je voudrais que vous me permettiez de donner l'adresse où on peut se le procurer, parce que c'est comme mon dernier chef-d'œuvre. C'est pas dans les bonnes librairies, ni même dans les mauvaises. C'est par correspondance. Ça s'appelle donc Les Chimères du Manoir Perdu, écrit et illustré par notre amie Marie-Claude Monchot, collaboratrice régulière du Libre Journal. Et c'est en vente exclusivement chez Aliénor, 341 rue Bonnac, BP 76, 33 034, Bordeaux-Sedex. Merci pour elle, Serge.
C'est vraiment un très très joli livre. Et ça vous il faut que vous le lisiez. Soit vous verrez, c'est vraiment
parce que c'est effectivement une question. Tout à l'heure, nous avions nos amis identitaires qui étaient là. Mais si on creuse un petit peu, si on veut aller au fond de l'identité, c'est le génome.
Bien sûr.
Donc les gens qui s'amusent aujourd'hui à manipuler le génome humain sont des satanistes, à un point que le docteur Dor, qui va bien au-delà
encore pire,
du point auquel vont les gens auxquels s'attaque le docteur Dor, parce que là c'est vraiment l'image de Dieu en l'homme que l'on cherche à détruire par les manipulations du génome. Hein, donc c'est un point important, et j'espère que Mme Rhetoré nous éclairera à ce sujet.
Ensuite, il y a un sujet qui est intitulé « Choc émotionnel et maladie ».
Voilà. Alors là, il s'agit, évidemment, le titre est un peu sibyllin, il s'agit en fait de parler de la méthode du docteur Hammer. Alors oui. Le docteur Hammer est quelqu'un qui fait parler de lui, qui est interdit de séjour en France. Il réside en Espagne, comme il se doit, parce que évidemment, il a eu le tort de faire remarquer que dans la Genèse des maladies, alors si c'est dit comme ça, ça ne paraît pas tout à fait nouveau, que dans la Genèse des maladies, évidemment, le psychisme a une importance considérable, mais lui a le tort de guérir.
Ouais.
Les gens, parce que c'est toujours
c'est la
les gens qu'on poursuit.
Les maladies sont présentes dans tous les organismes en permanence, et que certains chocs émotionnels provoquent des diminutions ou des inflammations, des diminutions des défenses ou des inflammations qui permettent à ces maladies qui normalement sont éradiquées naturellement, qui permettent à ces maladies de se révéler. C'est le cas du cancer, par exemple. Le docteur Gernès dit que chaque homme porte en lui des dizaines de millions de cancers, c'est-à-dire des dizaines de millions de cellules cancéreuses en permanence.
Alors le système immunitaire passe son temps à les éliminer.
Voilà.
Et puis le système immunitaire, évidemment, est soumis à l'action du cerveau, est soumis à l'action des émotions, et à un moment donné, évidemment, il y a un IP.
Et donc, si ça marche dans ce sens-là, ça peut aussi marcher dans l'autre.
Voilà.
C'est-à-dire que, comme le dit, un cœur joyeux est un excellent remède. Si on affronte la maladie avec courage, détermination, et je dirais presque enthousiasme, enfin combativité, ça aide beaucoup le traitement à fonctionner.
Voilà, et on peut renverser la situation. Même si, évidemment, chaque maladie est un cas particulier, et comme chaque être vivant est un cas particulier, et chaque être humain en particulier.
Et endocrinopsychologie.
Alors là, c'est Jean Duchazot, qui est un disciple du docteur Gauthier, alors que certains, en particulier ceux qui ont fréquenté les magasins de la Vie Claire, il y a quelques années, ont certainement vu des livres du docteur Gauthier, qui était constamment dans les présentoirs. Et le docteur Gauthier s'était intéressé à l'importance des glandes endocrines. Alors, vous savez, on dit que le système immunitaire est un cerveau liquide, et d'une certaine façon, le système endocrinien est aussi une forme de cerveau, c'est-à-dire un système bouclé qui commande un grand nombre de phénomènes dans le corps humain, et en particulier des phénomènes psychiques. Et donc, j'ai demandé à Jean Duchazot de traiter ce sujet, évidemment, qui est son sujet propre, mais justement, de façon à bien montrer quel peut être, à ce moment-là, le rôle de l'âme humaine, c'est-à-dire où est notre liberté? Si nous sommes pilotés par les glandes.
Ça, c'est la grande question.
Donc ça, c'est une question importante.
La grande question des effets, des déséquilibres hormonaux sur le comportement humain et donc sur le contrôle, le libre arbitre, par exemple. Dans quelle mesure le libre arbitre, quand inutile d'exister, quand on est soumis à des phénomènes chimiques?
Oui. Alors on sait bien que les drogués, évidemment, ont des comportements anormaux et on ne sait plus s'ils doivent être tenus ou non pour responsables de leurs actes. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça une des raisons pour lesquelles la Bible, et Saint Paul en particulier, est contre la drogue. Ouais. Enfin, évidemment, c'est pas la drogue au sens moderne, mais il est contre tout ce qui rend esclave. Et il est évident que c'est le cas d'une accoutumance trop forte comme la drogue.
Voilà. Alors cette journée, donc c'est le samedi 28 février, donc dans 3 semaines.
Voilà.
Ça se passe à la maison de la salle 78A rue de Sèvres, dans le 7e. Et je conseille d'aller voir cet endroit, parce que c'est quand même très particulier. Il n'y a que dans ce quartier-là. Enfin, non, dans Paris, on trouve quand même ces endroits un peu hors du temps, hors du monde, avec qui sont des lieux de rencontre voilà, curieux, qui semblent protégés.
À l'abri des bruits de la rue, voilà. Avec des jardins.
Voilà, c'est un très bel endroit. Et puis le sujet est passionnant, lui, je trouve. Quel est le prix d'entrée?
C'est 21 euros.
Monsieur Prival, oui, c'est vous qui tenez.
21
J'ai
euros.
J'ai vu que Dominique Tasson tournait vers vous un regard chargé d'angoisse endocrinienne.
Non.
Donc 21 euros pour la journée.
Pour la journée entière.
Avec le plateau repas ou...
Le plateau repas est à 13 euros. Et il faut s'inscrire auprès de nous pour le repas surtout.
Alors,
et s'inscrire avant le 20. Alors, le téléphone qui est également un fax, c'est 01 60 81 27 24.
01 60 81 27 24.
On m'a demandé également par courriel et je l'envoie encore plus vite. Oui. S.cep, S comme secrétariat, .cep, C-E-P, at wanadu.fr.
At, ça veut dire
arrobas.
Wanadu, W-A-N-A-D-2-O.fr.
Donc je renvoie le programme et le bulletin d'inscription à qui me le demande.
et les personnes intéressées pourront trouver à cette occasion les publications du CEP.
Bien sûr, la revue du CEP, qui est une revue trimestrielle, qui en est maintenant à son numéro 26. Donc nous avons accumulé un grand nombre d'articles dont la liste complète figure sur chaque numéro d'ailleurs. Et les gens peuvent, si ça les intéresse, en solliciter des exemplaires gratuits auprès de nous, même adresse, 4 rue de Beauvais, 91 410 Saint-Cyr sous Dourdan, à l'adresse du CEP, CEP. Je répète, CEP 4 rue de Beauvais, 91 410 Saint-Cyr sous Dourdan. Et pour les Parisiens, je leur rappelle qu'ils peuvent trouver cette revue en vente chez des libraires tels que France Livre, la librairie du Ken, et puis maintenant à la librairie Gaîtier, Notre-Dame d'Auteuil, chez Madame
peu importe, madame.
Ah, Céline Benoît,
enfin, la librairie Gaîtier.
Toutes les bonnes librairies. Je m'excuse de
chez madame de Béjarry.
Vous ne voyez pas la régie faire signe qui reste une minute, et dans cette minute, je voudrais caser, moi, simplement l'adresse du Libre Journal. Le numéro 314 qui vient de paraître révèle le secret de la malédiction de l'abbé Pierre, rapporte sur 3 pages l'effrayant témoignage d'une principale de lycée occupée à Paris, le lycée Beaumarchais, dans le 11e. Le film muet, Sa Majesté d'Hermouche, 24 pages, un carnet de timbres pour ce numéro 314, 110 euros pour s'abonner pour un an à une seule adresse, SDB, 4 place France Liste, 75 010, Paris.
Et alors demain, jeudi 12 février, à 21h, à l'invitation de Notre-Dame de Chrétienté, Daniel Amiche donne une conférence sur le thème « Rome et la Passion du Christ » de Mel Gibson à l'auditorium de l'Université Interage, impasse des gendarmes à Versailles, derrière la chapelle Notre-Dame des Armées. Et toujours le 12 février, à 18h30, au centre Chaillot-Galliera, 28 avenue Georges V, Monsieur le recteur Gérard-François Dumont, professeur à la Sorbonne, président de Population et Avenir, parlera des nouvelles logiques migratoires. Samedi prochain, 14 février, de 15h à 18h30, Jean Meyer dédicacera Louis XV ou le scepticisme politique à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e. Le mardi 24 février, fêtez Mardi Gras avec le chœur Montjoie Saint-Denis chez la mère agitée, 21 rue Campagne Première.
On y sera.
Réservation au 01 43 35 56 64. Et un auditeur vous demandait un cocorico d'honneur pour le marin qui a fait le tour du monde à la voile, qui a gagné le tour du monde à la voile, monsieur Joyon. Alors cocorico d'honneur.
Ben, cocorico d'honneur, mais moi ce que je comprends pas, c'est que je suis tellement pressé quand on est sur un bateau. Ils n'ont qu'à pas partir s'ils sont très pressés de rentrer.
72 jours, c'est quand même, non ?
Ouais. Bon, enfin, bravo, en tout cas, parce que j'aurais eu du mal à le faire. Bonne semaine, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris, sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le Libre Journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 11 février de 18 à 21h, en différé jeudi 12, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal a été réalisé par Franck.